Bonsoir à tous. Donc, nous avons démarré l'enregistrement donc de notre nouvelle émission Radio Pléiade. Donc, nous sommes le lundi 22 novembre et nous sommes toujours prisonniers de la Matrice. C'est notre 24e émission, donc Radio Pléiade. Et pour cette 24e émission, en fait, nous avons proposé donc le thème du New Age et de la guerre de conscience. Alors peut-être que déjà cette association entre New Age et guerre de conscience peut être déjà choquante en soi, je ne sais pas pour vous, mais vous allez comprendre. En tout cas, on va vous expliquer un petit peu le sens de tout cela. Donc on va et puis on va vous allez voir qu'on va travailler dans la nuance, hein. J'avais annoncé sur le chat Révolution Vibratoire de Telegram. Donc, l'objectif n'était pas de faire un exposé scolastique, un exposé magistral, hein, pas du tout. On est plutôt dans une démarche maïeutique sur cette chaîne, sur cette émission Radio Pléiade, c'est-à-dire que vous participez, vous êtes aussi des participants actifs à cette émission, et ça nous permet justement de progresser ensemble, de clarifier nos concepts, clarifier nos conceptions. Et clarifier du coup aussi nos actions pour la lumière, pour ce que nous attendons et ce que nous appelons donc la victoire de la lumière, puisque comme je l'ai dit à l'instant, nous considérons que nous vivons dans une planète prison. Alors, on va faire quelques petites annonces avant de démarrer sur notre thématique New Age et guerre de conscience. La première annonce, c'est que déjà donc ce mercredi soir, à 21h heure de Paris, vous avez droit à une nouvelle session de dissolution des implants. Et peut-être que Cindy aura son nouveau micro d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier justement toutes les personnes qui ont participé à l'opération un micro pour Cindy. Parce que voilà, la qualité était insuffisante. On considérait que la qualité était insuffisante pour les émissions que l'on fait, la qualité sonore. Donc, et puis on va peut-être aussi en profiter pour équiper un peu mieux Sandrine, parce que vous avez été généreux avec nous. Donc c'est sur le Tipeee avec Gaïa. Donc merci de nous avoir aidés. Si vous voulez continuer à nous aider, vous pouvez toujours le faire. Quoi qu'il en soit, le micro de Cindy est commandé. Cindy, un petit mot par rapport à l'émission de mercredi, peut-être? Alors, est-ce que Cindy est dans les parages? Peut-être pas perdu. Bon, je ne la vois plus. Ça commence bien. On l'a perdue.
Non, elle a Telegram qui a bugué, elle est obligée de redémarrer pour pouvoir revenir en fait.
D'accord. Je te remercie. Ah oui, je n'avais pas vu. Bon, voilà. Bon, en tout cas, j'ai fait l'annonce donc pour les séances de dissolution d'implants donc ce mercredi soir. Et puis la semaine prochaine, vous les aurez en anglais. Et c'est à peu près tout, en fait, en l'occurrence, pour les annonces. Ouais, c'est à peu près tout. Ah si, j'en avais peut-être une petite dernière. Alors, c'est plus une recherche de candidats. Comme vous le savez, en fait, j'ai l'habitude de vous solliciter, en fait, pour faire des missions pour enterrer des pierres Sintamani. Parce que, voilà, nous continuons à le faire pour préparer la percée de la lumière par compression. Et nous aurions besoin d'un candidat qui serait donc à proximité de Bordeaux pour enterrer une pierre dans la région de Bordeaux et on va dire sur la route du bassin d'Arcachon. Donc, si vous êtes cette personne-là, merci de me contacter en message privé. Et voilà. Et puis, on discutera des modalités de tout ça en message privé. Et merci à l'occasion à toutes les personnes qui, jusqu'à présent, donc, ont participé à ces missions Pierre Sintamani. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction et puis je laisserai la parole à vous tous et aux co-animateurs, aux co-animatrices. Ça y est, Cindy est revenue, très bien. Donc, je vais faire une petite introduction. D'ailleurs, d'abord par une citation qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux en ce moment et pour cause. C'est que cette citation, alors en fait, à l'origine, elle est de Mark Twain. Elle dit qu'il est beaucoup plus facile de tromper les gens que de leur démontrer qu'ils ont été trompés. Et vous allez voir que cette citation a tout à fait sa place par rapport à notre thématique de ce soir, donc New Age et guerre de conscience, parce que justement, le New Age nous a trompés de multiples façons et il est parfois très très difficile de justement de prendre conscience de cette tromperie subtile Et c'est pour ça que nous allons ce soir travailler dans la nuance sur ces pièges subtils du New Age. Alors, pour continuer aussi dans mon introduction, avant de parler à proprement du New Age, je voudrais replacer tout ça en fait dans une perspective historique. Une perspective historique en fait qui consiste tout simplement à mettre en lumière le fait que sur cette planète Terre, nous vivons une situation bien étrange. Nous vivons une guerre par procuration entre forces de l'ombre et forces de la lumière. Et certains d'entre nous, sont des représentants de la lumière, et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle vous êtes ici. Ce qui me fait penser d'ailleurs que nous ne sommes pas présentés, mais bon, c'est parti, j'ai démarré, tant pis, c'est trop tard. Vous vous présenterez quand vous prendrez la parole. Donc, bon, en ce qui me concerne, moi, je suis un divergent, vous l'avez compris, donc voilà, je suis Hervé, un divergent. Et donc, nous sommes dans une guerre par procuration entre l'ombre et la lumière sur cette planète. Et cette guerre, en fait, elle a lieu depuis des milliers d'années. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'effectivement, tout est caché à nos yeux. En tout cas, une grande partie est cachée à nos yeux. Et il y a eu l'histoire, et même peut-être la préhistoire, est remplie justement d'influences, d'ombre et de lumière, chacun, chaque partie essayant de pousser ses pions dans le but, bien évidemment, de garder la main sur la situation et de trouver une résolution au conflit en sa faveur. Donc, la lumière voulant libérer cette planète, l'ombre voulant la garder comme son bastion, son dernier bastion d'ailleurs. Et alors ces influences en fait à travers les âges, donc on va venir au New Age, ne vous inquiétez pas, mais vous allez voir que tout ça fait sens, c'est juste pour replacer dans une perspective un petit peu plus grande. Alors moi il y a un livre que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Les grands initiés d'Edouard Schuré. Le sous-titre d'ailleurs, c'est l'esquisse de l'histoire secrète des religions. En fait, c'est un livre qui est un petit peu fantasmé, un petit peu romancé justement des grands initiés qui ont été infiltrés donc sur la planète Terre. Donc vous comprenez-le comme des agents de la lumière qui ont été infiltrés sur la planète Terre justement pour accomplir une certaine mission dans cette guerre ombre-lumière à la surface de la planète. Donc, bah, quelques noms, dans l'ordre d'ailleurs de ceux qui sont présentés dans le livre d'Edouard Schuré. Donc, on a eu Rama, on a eu Krishna, vous voyez, on pense déjà au New Age. On a eu Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, et puis Jésus, voilà, Jésus au début de notre ère. Je ne sais pas si c'était le dernier, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ce sont les personnages, les grands initiés qui sont cités dans l'œuvre donc d'Edouard Schuré, donc voilà. Histoire secrète des religions. Et en l'occurrence, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé si on reprend juste, repartons par simplification juste du dernier, donc le Christ arrivé au début de notre ère sur la planète Terre, un agent de la lumière venu infiltrer la planète Terre pour y apporter des enseignements qui justement nous permettraient faire face plus efficacement à ce siège de l'ombre sur la planète Terre, nous apporter des enseignements pour nous permettre de nous échapper. Et puis de réaliser finalement notre mission de lumière sur cette planète pour résoudre cette anomalie planétaire et dissoudre définitivement donc l'ombre sur cette planète et dans l'univers. Donc le Christ a apporté des enseignements, et ces enseignements, eh bien, bien évidemment, ils ont été déformés, ils ont été distordus, ils ont été transformés par qui, vous savez, par l'ombre, bien évidemment. Voilà, donc chacun pousse ses pions, comme je vous le disais tout à l'heure, la lumière pousse ses pions, l'ombre pousse ses pions, et l'ombre, elle a poussé un gros pion, et c'était justement pour faire face à cet assaut de la lumière avec l'arrivée de Jésus et tous ses enseignements, elle a poussé un gros pion en fait en la personne de Constantin. Constantin le Grand, donc un empereur romain, d'un empire romain déjà un peu décadent, certes, qui a donné son nom à Constantinople, hein, qui a déplacé la capitale de l'Empire à Constantinople. Mais cet empereur Constantin, en fait, il est également connu sur le plan je dirais, ésotérique, comme un grand archonte. Oui, oui, vous entendez bien, donc un archonte incarné dans un corps d'homme, c'est possible, c'est arrivé. Donc vous imaginez bien qu'un archonte incarné dans un corps d'homme ne va pas faire le jeu de la lumière, il va faire le jeu de l'ombre. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'empereur Constantin, donc en 325 de notre ère? Eh bien, il a réalisé ce qu'on appelle le Conseil de Nicée. Et dans ce Conseil de Nicée, il a convoqué tous les évêques, tous les représentants, en fait, des différentes mouvances chrétiennes. Et Dieu sait s'il y en avait à l'époque, parce que on était encore libre à l'époque, justement, de dériver dans nos croyances et puis de mettre, justement, je dirais, à l'épreuve ces croyances de notre réflexion. Il a convoqué tous les évêques, donc, pour le Conseil de Nicée. Donc, c'était en Turquie. C'est une ville qui était en Turquie. Elle a changé de nom aujourd'hui. Je me souviens plus son nom. Et donc, environ 300 personnes, on va dire ça comme ça. Et puis, il leur a placé un ultimatum. Alors, il a redéfini, en fait, il a solidifié le dogme chrétien. C'est d'ailleurs considéré comme l'acte fondateur de la religion chrétienne. Alors ça, c'est une information plus ésotérique qu'exotérique, tout en menaçant de mort, justement, toute personne qui se plierait pas, justement, à ce nouveau dogme imposé par l'archonte empereur Constantin. Donc, en fait, à l'époque, voilà, on avait des enseignements du Christ qui venaient d'ailleurs en ligne directe du Christ, et moi, je pense notamment aux enseignements gnostiques. On en a déjà pas mal parlé sur cette radio. Vous savez que les gnostiques ont été persécutés, même s'il y a eu des résurgences dans l'histoire. Donc, les gnostiques étant des pions de la lumière. En signant cet acte le concile de Nicée, donc l'empereur Constantin voulait mettre un terme à tout cela, voulait mettre un terme justement à ces enseignements de la lumière pour imposer son dogme qui permettrait de mettre justement sous une chape de plomb les croyances religieuses et orienter ainsi la religion dans le sens du jeu de l'ombre. Donc voilà. Et donc c'est un exemple intéressant qu'il est bon de garder en tête. Et alors on peut continuer donc à traverser les siècles depuis l'empereur Constantin, et on va arriver jusqu'à nous, jusqu'au New Age. J'y arrive. Je vais terminer ma longue introduction, mais je pense qu'elle est elle vaut la peine néanmoins. Et qu'est-ce que c'est le New Age? Ben, c'est une nouvelle fois une des parties qui essaye de pousser un pion. Donc l'ombre ou la lumière, à votre avis? L'ombre ou la lumière? Eh bien, nous considérons que le New Age, qui est apparu donc dans les années 60, est un pion qui a été poussé à l'origine par la lumière, justement, pour remettre au goût du jour, mais d'une façon modernisée, les enseignements des grands maîtres spirituels. Donc, comprenez les grands initiés que j'ai évoqués tout à l'heure en début d'émission. Remettre au goût du jour ces enseignements pour créer justement un mouvement qui soit en dehors des religions infiltrées, donc comprendre religions infiltrées. J'ai parlé du christianisme, mais toutes les religions ont été, tous les enseignements des religions ont été infiltrés par l'ombre. Et donc il y a eu cette initiative donc dite du New Age, donc New Age indépendamment des religions existantes. Ceci étant, encore une fois, comme l'empereur Constantin avait réagi face au Christ, aux enseignements du Christ, eh bien, l'ombre a réagi à cette vague de lumière qui avait été favorisée d'ailleurs par un événement astronomique, on pourra en reparler tout à l'heure. L'ombre a réagi et a mis en place un système avec des gourous, la propagation de la drogue facilitée par la CIA, etc., qui a permis en fait de reconnecter toutes ces personnes qui spontanément justement venaient avec l'ouverture du cœur dans ce mouvement New Age, de les connecter à quelque chose de plus bas vibratoirement et détourner ainsi leur énergie et donc leur vision donc du mouvement New Age. Donc on a, alors bien sûr après on a tourné en ridicule tout ça, hein, vous souvenez tout ce tapage qu'il y a eu pour ridiculiser la méditation transcendantale, le fait que tout ce qui était New Age était plus ou moins sectaire. Vous vous souvenez aussi sans doute de certains exemples emblématiques de sectes comme la secte du Temple solaire, où des personnes s'étaient soi-disant immolées par le feu, alors qu'il existe des preuves que ces personnes ont été brûlées au lance-flammes. Tout ceci pour décrédibiliser justement le New Age, décrédibiliser ces enseignements des maîtres spirituels. Donc, une nouvelle fois, une tentative de la lumière infiltrée par l'ombre. Chacune avance son pion à tour de rôle, comme dans une partie d'échecs. Les blancs et les noirs jouent à tour de rôle. Donc voilà, voilà pour ma petite introduction. Allez, je vous laisse la parole, les filles. J'ai beaucoup parlé déjà. Et puis, on va égrener, justement, ensemble, un petit peu, c'est cette notion de New Age infiltré et tous les pièges qui nous ont, toutes les peaux de banane qui nous ont mises.
Alors, bonsoir, moi, c'est Gwen. Non, l'intro, super, c'est exactement ça. Donc, du coup, on en arrive là. Et je pense que la première question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ça leur sert, en fait? À quoi ça sert de nous mettre, en fait, dans des croyances, dans des concepts plus ou moins lumineux? Enfin, voilà. À quoi ça avantage? Qui ça avantage et tout ça? Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais le fait de croire, de penser... avec ces concepts New Age, on va le dire ça comme ça, en fait, ça va nous enfermer dans des boucles. Et quand on est enfermé dans une boucle, du coup, on tourne en rond, c'est le terme de boucle. Et du coup, on va rester bloqué dans une croyance et on ne va plus aller chercher autre chose, en fait. Et je pense que ça, à partir du moment où on s'enferme dans une boucle, dans une croyance, il commence à y avoir un problème parce qu'on sait que tout ce qui est mouvement est la vie, en fait. Donc, à partir du moment où on s'arrête de réfléchir, on s'arrête d'aller chercher plus loin, on s'enferme dans quelque chose. Et malheureusement, tous ces concepts-là, c'est un peu leur but, en fait. C'est vraiment de nous enfermer dans des états de conscience pour nous empêcher d'évoluer. Et ça, c'est très, très important à prendre déjà pour commencer à comprendre, en fait, à quoi ça sert, ces concepts-là, quoi.
Alors justement, moi j'aurais envie d'inviter quelqu'un sur le plateau de Radio Pléiade pour nous dire pour vous c'est quoi le New Age justement. Qu'est-ce que vous pensez du New Age? C'est quoi le New Age? Donc dans une démarche, c'est absolument pas pour piéger qui que ce soit. C'est juste justement pour amorcer la discussion sur le sujet. Est-ce qu'une personne souhaiterait apporter justement une pierre à l'édifice? Donc, n'oubliez pas, donc pour prendre la parole, donc vous devez appuyer sur votre micro. Donc, ça correspond à un lever de main. On vous donne la parole. Votre micro passe de rouge à gris. Et à ce moment-là, vous devez activer votre micro pour prendre la parole. Donc, moi, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus interactif ce soir, si c'est possible, parce que vous allez voir que ça a un intérêt, justement, d'avoir de l'interactivité. Ça nous permet, ça nous fait mieux avancer plutôt que d'écouter une seule personne qui va vous seriner ce qu'on pourrait prendre pour des vérités. Mais justement, il est bien de confronter ces points de vue. Alors, je ne vois pas de main levée. Je vais, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais, qu'une main se lève, je vais vous donner je vais vous citer, alors, pas Cobra, non, rassurez-vous, je ne vais pas vous citer Cobra. Je vais vous citer une autre personne, d'ailleurs, qui n'aime pas du tout Cobra. Je vais vous citer Laura Marie, qui avait écrit des articles très, très intéressants sur ces sujets-là, sur la spiritualité et sur le New Age. Et notamment un article que j'avais repris sur Révolution Vibratoire il y a quelques années de cela. Et voilà, je vais vous citer justement qu'est-ce que c'est que le New Age sous une forme imagée. Et peut-être que vous y reconnaîtrez, en tout cas, moi, je m'y reconnais, je pense qu'on peut tous s'y reconnaître d'une certaine façon. Alors, non, être spirituel, cela ne veut pas obligatoirement dire s'habiller en guenilles, ne plus s'épiler, ne plus se maquiller, ne plus prendre soin de soi, faire du yoga, se nourrir de prana, faire des câlins aux arbres, dire namasté, boire de la spiruline, faire des retraites où l'on ne parle pas pendant 3 semaines, faire vœu de chasteté, être pauvre, sentir le patchouli, mettre de l'encens chez soi, méditer, dire « Om » et utiliser les termes « amour inconditionnel »,« ego », »,« lâcher prise »,« enfant intérieur », »,« focalise-toi sur le positif » à chaque fois qu'on le peut, peu importe la question posée ou le sujet évoqué. Pendant combien de temps allons-nous encore subir cette image dans l'inconscient collectif? À partir du moment où l'on répète les mêmes choses et que les autres et que l'on fait les choses pour correspondre à un moule, alors on sait qu'on est entré dans une autre matrice. On est à nouveau formaté, on répète les mêmes erreurs, on s'éloigne à nouveau de qui on est vraiment et on va totalement à l'encontre de la vraie spiritualité qui est celle de l'authenticité et non de l'apparence. Voilà, je trouve qu'elle l'a très bien écrit, Laura Marie. Donc, je vous le cite. Donc, si vous souhaitez, sans doute que Cindy vous aura mis le lien. Donc, l'article s'appelle « Les dangers du New Age, les déviations dangereuses, les enseignements principaux » par Laura Marie. Et justement, on va regarder un petit peu dans le détail ces enseignements. Alors, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ça là-dedans? Est-ce que vous sentez le patchouli? Est-ce que vous dites namasté? Est-ce que vous dites om de temps en temps au petit déjeuner? Dites-moi. Soyez sincères. Eh, on est là entre nous, hein. On n'est pas là pour se mettre des masques, on est bien d'accord. Sinon, on n'est plus dans la spiritualité.
Bah, c'est vrai que c'est un texte, à la première lecture, il nous fait, enfin, personnellement, mais il m'a fait beaucoup sourire. Et ça me fait penser, moi, tout de suite, à un premier concept, c'est être égoïste, en fait. Quand justement, on pense à soi, quand justement, on a envie d'être bien quand on veut regarder des choses sans forcément ce qui se passe autour. Enfin voilà, ce terme d'être égoïste, je pense que ça peut être une bonne introduction à tout cela.
Alors moi, j'attends toujours justement le volontaire qui voudra bien sur Radio PA de venir, je dirais, prendre la parole pour donner son avis sur ce qu'est le New Age justement ou le New Age infiltré. Je vous attends, hein, allez-y, soyez courageux. Ce à quoi nous voudrions vous amener ce soir, c'est vous faire comprendre que malgré justement ce pion avancé par la lumière, cette initiative de la lumière, donc du New Age, ceci a été transformé. Et pour justement nous créer des pièges qui sont finalement assez subtils. Qui sont beaucoup plus édulcorés, beaucoup plus enrobés que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est ce qui fait que, justement, on peut tomber assez facilement dans ces pièges-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas se sentir coupable d'être tombé dans ces pièges pour pouvoir, justement, réaliser que nous avons été trompés. Et n'oubliez pas, donc, il est toujours plus facile de tromper quelqu'un que de lui démontrer qu'il a été trompé. Allez, Patricia, merci Patricia pour ton courage. Vas-y, tu as la parole, tu peux activer ton micro. Patricia, nous t'attendons. En tout cas, j'ai vu ton lever de main. Tu dois activer ton micro.
C'est bon ? Vous m'entendez ?
Ouais, c'est bon, on t'entend bien.
Voilà. Eh ben, écoute, moi cet après-midi, je suis allée cueillir des pommes et j'ai embrassé l'arbre, je l'ai remercié. Et puis tous les arbres qui étaient autour, parce que voilà, j'avais envie, ça m'a fait plaisir. Et puis, j'avais envie d'avoir de la gratitude. Par contre, pour moi, le New Age, pour moi, c'est un monde artificiel. Enfin, c'est mon ressenti. Voilà. C'est pas un vrai monde. C'est un monde qui est vraiment calculé, fait avec… Il faut être comme ça, il faut faire ça, il faut dire ça. Tu vois, c'est pas du tout, pour moi, quelque chose de naturel.
Donc, en fait, voilà. D'accord, ben merci pour ton témoignage. Donc, tu embrasses les arbres. Ceci étant, nous n'avons pas dit qu'embrasser les arbres n'était pas bien. Hein. Entendons-nous bien.
Je comprends bien, mais ça s'est trouvé tout à l'heure. Je suis allée ramasser des pommes dans un arbre, sur un arbre, et je l'ai remercié parce que, voilà, pour moi, c'était naturel.
Tout à fait. Très bien. Ben, merci. Voilà. Donc, voilà, la spontanéité, l'élan du cœur, effectivement, ce n'est pas quelque chose de fabriquer si tu ne te conformes pas justement à une super norme spirituelle. Tu le fais sous un élan du cœur et puis parce que voilà, c'est naturel comme tu le dis. Très bien, voilà. très intéressant.
Par contre, ton micro, Alexandre, c'est pas super, hein, c'est haché.
Enfin,
j'espère que si je réécoute, ça sera de meilleure qualité.
J'ai pas d'accord.
Compris parce que d'autres personnes disent que ça marche bien pour eux.
D'accord, c'est possible que ce soit lié à ta connexion Internet, hein, mais bon, j'attends effectivement d'autres avis pour me dire. Merci pour ton avis. Alors, je vais donner la parole à Ève maintenant. Allez-y, Eve.
Bonjour. Bonjour. Je t'entends très bien, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Je pense que le New Age, comme tu l'as très bien dit au début, c'était très bien. Et il y a des choses qui sont encore bonnes. Embrasser les arbres, ce sont les premiers qui ont parlé de la méditation, de l'énergie de la nature, etc. Donc, il faut être, je pense, justement, c'est pour ça que l'émission va être très bien, parce qu'on va pouvoir déterminer exactement ce qui est, ce qui vient de la cabale, ce qui vient des méchants, et ce qu'il faut garder, parce que, eh bien, il y a quand même des bonnes choses dedans.
D'accord, ben merci beaucoup, Eve. Super. On prend ton témoignage également, et puis on va prendre celui de Nour. Également, tu peux activer ton micro, vas-y.
Oui, bonsoir. Alors, en fait, moi, j'avais envie de témoigner que, mine de rien, le New Age, ça m'a permis de m'ouvrir, dans le sens où ça m'a ouvert à des possibilités et à des espaces plus grands que ceux que j'avais l'habitude de côtoyer. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, ça a duré comme ça pendant 10 ans où j'étais très, très éblouie, je dirais, par les illusions aussi, les belles illusions, mais aussi quelques vérités qui sont proposées. Et puis, ça fait quelques années, là, maintenant aussi, que j'ai, mûri. C'est comme si j'ai fait des rencontres aussi dans ce milieu-là qui ont forgé une connaissance à partir de l'expérience et qui ont aiguisé mon discernement. Et j'ai vraiment la sensation d'en avoir eu besoin. C'est mon parcours. Et puis après, je voulais aussi ajouter que moi, je n'embrasse pas spécialement les arbres, mais par contre, je les salue. J'ai quelques amis dans mon quartier et j'aime beaucoup me relier à eux. Mais ça se fait d'une manière très intime. Je fais pas spécialement brûler d'encens. J'ai quelques travers, je dirais. Je suis fumeuse. J'aime le gros vin. Je suis assez épicurienne. Donc, y a parfois la culpabilité de pas suivre, l'hygiène de vie qui est proposée dans ce milieu-là. Mais par ailleurs, je pense pas que ce soit une compensation, mais un équilibre pour moi, c'est que voilà, je vis ma vie, je suis urbaine, j'ai 32 ans, et en même temps, j'arrive à m'adapter à la vie telle qu'elle est ici, et en même temps, j'ai aussi le besoin de me relier, de faire des retraites méditatives quelques jours, de manière assez régulière, de me retrouver autour de personnes. Je dirais qui ont une qualité vibratoire vraiment intéressante. Et puis voilà, par ailleurs, évidemment, les émissions comme celles que vous proposez me nourrissent aussi profondément. Donc voilà, je me sens dans une zone un peu hybride, un peu incognito parmi ceux qui côtoient pas le monde de la, je dirais, de cette notion de profondeur qu'on peut acquérir surtout après avoir traversé les illusions sincères de ce que propose le New Age.
Très bien. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je rebondis juste par rapport à ce que tu as dit. Je pense que ne quittez pas cette soirée en vous disant que, en pensant que nous avons dit que le New Age c'était bien ou que le New Age c'était pas bien. Alors, effectivement, il existe un courant de personnes et je pense que sans doute que Laura Marie en fait partie, que je citais tout à l'heure, qui pense que le New Age était un mouvement en fait qui était à l'origine justement conçu pour nous perdre, conçu pour perdre les êtres spirituels que nous sommes, mais dès l'origine. Il existe aussi un courant de personnes qui pensent que le New Age est quelque chose de profondément bon, donc inspiré des maîtres spirituels, et il n'y a rien à redire à cela et qu'il n'y a pas d'ombre dans le New Age. En fait, nous tenons une position médiane. Comme je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous considérons que l'impulsion initiale a été un pion poussé par la lumière Et d'ailleurs, la lumière continue à insuffler des bonnes choses, je pense, à travers le mouvement New Age, même si effectivement, ce mouvement a été infiltré. Les enseignements ont été, été changés. On a connecté les gens à la drogue. Je parlais de ça, mais bon, il y a plein d'autres choses. Mais on va plutôt débattre, je dirais, des clichés ce soir, des clichés qu'on appelle les clichés New Age. Mais voilà, le New Age n'est ni bon ni mauvais en soi, puisque nous sommes sur une planète, de toute façon, où tout se mélange. Voilà, il y a la peinture noire et la peinture blanche, chacun apporte ses nuances, ce qui fait 50 nuances de gris sur la planète Terre. Mais voilà, donc c'est normal que le New Age puisse vous apporter des choses positives, c'est tout à fait normal. Voilà.
Merci. J'aimerais peut-être juste rebondir sur ce que vous dites. J'ai été accompagnée pendant 10 ans d'une personne que j'identifie aujourd'hui comme étant, comme s'étant perdue en fait dans ce courant-là et dans les désillusions aussi qu'elle propose. Et j'aimerais aussi partager cette expérience, c'est que ça a donné lieu aussi à une violence inimaginable en fait. Il y a une rupture au bout de 10 ans, mais où j'ai vraiment perçu, et c'est aussi de ça que j'ai grandi, mais une virulence et une violence spirituelle en fait insoupçonnée, et comme c'est des personnes souvent qui connaissent aussi très bien les failles émotionnelles, il peut y avoir des pièges vraiment redoutables. Et c'est pour ça que je saurais pas me positionner. Merci d'avoir dit qu'il s'agissait pas de rentrer dans une dichotomie ou dans une autre, parce que c'est tellement, tellement, tellement nuancé. Et j'écoute aussi Laura Marie, et je peux aussi tout à fait admettre que son propos puisse être juste, et c'est différents niveaux de réalité en fait. Mais dans la vraie vie, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent s'y perdre et ça peut faire des dégâts monstrueux.
Alors, justement, j'avais pas forcément envisagé de partir dans cette direction-là, mais puisque tu parles de ça, moi, ce que ça m'évoque, alors, c'est que, le New Age, quand je dis, il a été infiltré par l'ombre, donc bon, j'ai donné quelques exemples, les gourous, la drogue, mais en réalité, la magie noire s'est infiltré dans le mouvement New Age. Donc, il y a eu un usage de la magie à mauvais escient. Il y a eu aussi le contrôle mental qui s'est infiltré dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on a utilisé aussi le contrôle mental, les techniques de dissociation, les techniques d'abus pour pouvoir créer des gourous, pour pouvoir aussi, et des victimes. Hein. Bon, je ne sais pas si. Alors, voilà, j'avais pas forcément envisagé de partir dans cette direction-là, mais il y a eu des courants très très sombres, très très noirs au sein du New Age, avec effectivement de la prise de contrôle sur les personnes, de la manipulation, avec l'aide de magie noire ou des choses comme ça. Donc, je dis pas du tout que c'est ton cas, hein, entendons-nous bien, mais voilà, c'est pour ça que parler de New Age, c'est quelque chose de très vaste. Et si on voulait approfondir cette question, on pourrait en parler, mais ça, pour moi, ça me nécessiterait un petit peu de préparation.
En tout cas, merci pour votre écoute et puis pour les émissions que vous proposez. C'est très, très nourrissant pour moi, en tout cas.
Merci, Nour. Il y a d'autres personnes qui ont... Hop, il y a Lélé qui souhaite prendre la parole. Vas-y, tu voulais intervenir. Et puis après, on va partir sur un premier cliché. Vas-y, Lélé, est-ce que tu peux activer ton micro ? Tu dois activer ton micro si tu n'as pas levé la main par erreur. Non ? Bon, alors, on va à ce moment-là, donc on va partir sur un premier cliché. Donc, le premier cliché que je vous propose, c'est l'ego. Il faut tuer l'ego. Il faut dépasser l'ego. Alors, en fait, on trouve d'ailleurs dans les enseignements bouddhistes, mais d'autres personnes en parleraient bien mieux que moi, justement cette notion de l'ego est une illusion donc qu'il faut dépasser. Je pense que derrière cette notion-là, il y a quelque chose de réellement spirituel et de réellement profond. Ceci étant, lorsqu'on justement on plonge dans la spiritualité, on a un petit peu trop tendance à attraper le sens commun de l'ego. Donc, le sens commun de l'ego, ça va être quoi? Justement, ça va être, cette telle personne a de l'ego, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens commun, ça veut dire elle a une forte personnalité, elle cherche, par exemple, le pouvoir et le contrôle sur les autres. Une personne qui a de l'ego est beaucoup plus, on va dire, dans le faire ou dans l'avoir que dans l'être. Et l'ego est toujours utilisé un petit peu, à vrai dire, comme une arme par les gens dans le monde de la spiritualité, une arme justement pour juger l'autre de façon hâtive. Et en réalité, on est dans une vision beaucoup trop simplificatrice au sens commun du terme ego. En fait, encore une fois, si je repars de l'exemple de l'article de Laura Marie, quand vous êtes spirituel, vous aimez bien vous afficher, par exemple, sur les réseaux sociaux avec un avatar d'archange ou un arbre ou une très belle manifestation de la nature, mais vous ne vous montrez plus visuellement, vous ne montrez plus votre visage. Est-ce que c'est réellement ne plus être dans l'ego que d'avoir choisi un avatar d'archange plutôt que de montrer son visage? Voilà un exemple. Est-ce que, par exemple, si vous aimez le sport, quel qu'il soit, et pourquoi pas la compétition, est-ce véritablement être dans l'ego que d'aimer le sport et la compétition? Voilà, c'est des questions que je vous pose. Moi, la réponse que je donnerai à ces questions, c'est qu'effectivement, montrer son visage au lieu de montrer le visage d'un archange sur un réseau social n'est pas synonyme d'ego. Aimer faire la compétition dans un sport n'est pas non plus synonyme d'ego, et on peut être un être tout à fait spirituel sans être aligné sur ces clichés. Et en fait, l'ego, c'est je dirais l'aspect négatif de la chose, c'est la volonté de se comparer tout le temps, se comparer avec les autres. Et vous verrez que dans le monde de la spiritualité, les gens ne cessent de se comparer les uns aux autres pour essayer de se mesurer qui est le plus développé spirituellement. Donc, d'un côté, on vous dit il faut chasser l'ego, et d'un autre côté, on passe son temps à se comparer, à se mesurer les uns aux autres. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie autour de ce concept d'ego qui fait justement que l'ego est une première tarte à la crème, quelque part, du New Age, qui, à mon sens, cache un concept qui omet un concept qui est beaucoup plus important, qui est celui de l'humilité, dont on entend très peu parler, dont on entend trop peu parler. À mon sens, il ne peut pas y avoir de spiritualité profonde justement sans humilité. Alors, mais c'est pas justement juste l'ego. C'est vraiment quelque chose d'assez différent. Donc, je prends donnez-nous votre expérience, donnez-vous votre conception de l'ego. Que pensez-vous de cette introduction que je vous ai donnée? Que pensez-vous de cette tarte à la crème d'il faut tuer l'ego? Alors oui, il y avait Myrta qui souhaitait parler. Vas-y, Myrta. Alors, je ne sais pas si c'était sur l'ego en particulier ou je crois que tu avais levé la main avant. Et après, je donnerai la main à Love for All.
C'était tout. Bonsoir tout le monde. C'était tout à l'heure que mon compagnon voulait parler concernant donc, le sujet. Mais bon, maintenant, voilà, c'est passé.
C'est passé. Bon, bah, d'accord. OK. Voilà. Merci. Alors, Love for All, vas-y, tu peux prendre la parole.
Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui, on t'entend très bien.
Bah, je vous remercie déjà de m'avoir accueilli au sein de votre groupe, je vous suis depuis le 11. Depuis que j'ai fait le marathon spirituel avec vous, c'était vraiment très bien. Pour moi, l'ego, en fait, c'est pas une question de mettre son avatar ou je ne sais quoi. C'est une question spirituelle. Tuer son ego, c'est en fait ne plus avoir raison ou avoir absolument raison à tout prix. C'est-à-dire que face, exemple à ce qui nous arrive à l'heure actuelle, c'est simplement être dans la paix avec l'autre, en fait, en définitive. Quand on dit tuer son ego, au jour d'aujourd'hui, le problème qu'il y a, qui nous cause problème dans ce monde, c'est vraiment l'ego. Puisque chacun, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans des dogmes religieux, peu importe comment on les appelle, parce que moi je suis spirituelle, enfin c'est la religion qui m'a ramenée vers la spiritualité, et c'est comme ça que je le conçois. Mais en définitive, c'est l'ego qui est le destructeur de ce monde. C'est-à-dire que notre propre ennemi, c'est l'ego. C'est pas le voisin. C'est pas. Et tant qu'on n'aura pas travaillé là-dessus, ça sera difficile d'avancer, en fait, par rapport à l'humanité. C'est comme ça que je le vois, moi, en fait. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est mon expérience spirituelle. Et d'après ce qu'il m'a dit un ami qui habite en Suisse, qui est guérisseur, il m'avait dit, tu as tué ton ego, tu n'as plus d'ego. J'ai dit, ben, j'espère bien, parce que j'ai vachement travaillé là-dessus. Je ne sais pas, mais je l'espère. Je l'espère. J'espère que j'ai tué mon ego.
Alors, voilà. Reste avec nous. Reste avec Merci. Nous. Alors, les personnes qui ne parlent pas, n'activez pas votre micro, s'il vous plaît, pour éviter les bruits parasites. Alors, moi, j'aime pas beaucoup l'expression « tuer son ego », justement. Mais est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as réussi à tuer cet ego et de quel assassinat s'agit-il ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ?
En fait, dans les religions, dans la spiritualité, moi je suis de confession musulmane, donc j'ai étudié la Torah, la Bible, etc. Donc j'ai été plus loin que ça parce que j'ai appris la philosophie des enseignements de l'islam, c'est-à-dire que On appelle ça la loi triangulaire. Et dans la loi triangulaire, vous avez énormément ce que les ennemis en face utilisent comme aussi la loi triangulaire. C'est vous avez plusieurs paliers pour arriver. C'est quand on prend conscience que l'on a une âme. Et qu'on n'est pas là sur terre pour manger, dormir, etc. Et qu'on appelle ça en arabe, c'est al-nafs al-lawwam, c'est-à-dire l'âme réprobatrice du mal. C'est-à-dire qu'on fait son sondage intérieur. On prend, si vous voulez, ses tripes. Moi, je préfère des mots simples. On les regarde en face. Ça fait très, très mal. Parce qu'on se regarde en face et on dit, voilà comment je suis. Maintenant, je fais quoi avec ça ? J'avance comment ? J'ai ça et ça et ça comme problème. Je voudrais m'améliorer. Comment je peux faire ? Comment est-ce que je peux m'améliorer ? Parce que mon but, en fait, c'est de rapporter la lumière dans le monde. C'est pas de manger, de dormir, tel un animal. Encore un animal, il a aussi une conscience, désolé. Donc, vous avez le premier palier. Le deuxième palier, quand on a réglé ce problème-là, vous en avez un autre. C'est chaque jour, on doit se battre contre soi-même. C'est ça l'ego. C'est-à-dire à rester sur ce sentier-là, à rester connecté à la lumière, à rester vraiment dans ce réseau et ne pas dévier. Et c'est difficile parce que c'est un combat en soi-même, de rester vraiment cramponné à cette corde-là, à ces préceptes-là qui... C'est très compliqué parce que ne pas juger son voisin, ne pas dire du mal, ne pas faire attention à ce qu'on dit, ne pas heurter les autres, etc., etc. Et malgré tout, on est dans ce monde, on est assailli par tout ça. Donc on ne peut pas on vit avec d'autres personnes, on vit avec d'autres mondes, on vit avec d'autres personnes qui sont différentes de nous. Il faut accepter comment les autres pensent, même s'ils ont d'autres façons de voir les choses, et ne pas être là dans la condamnation, dans le jugement. Quand on arrive à ce palier-là, vous avez un autre palier qu'on appelle le nirvana. Nous, en arabe, on l'appelle al-mutma'inna. Et quand vous atteignez la mutma'inna, c'est vous devenez un être spirituel, de lumière, comme ce que vous avez mis dans votre avatar, le petit bonhomme là qui devient un sage. Vous devenez, vous, ce que vous appelez la lumière, l'énergie source, vous ne faites qu'un avec elle. Rien ne peut vous atteindre. Vous êtes tellement élevé spirituellement que vous devenez les yeux. Moi, je l'appelle Dieu. Et certains l'appellent la source. Mais la source, c'est autre chose. Pour moi, la source, c'est l'énergie créatrice de tout. Dieu est au-dessus de tout ça. Enfin, moi, je le prends comme ça. Je respecte les avis des autres. Et vous ne faites qu'un, puisqu'il devient les yeux par lesquels vous regardez, le nez par lequel vous respirez, les mains par lesquelles vous touchez. Vous devenez amour. Vous n'êtes que amour et rien d'autre. Rien ne peut vous atteindre. À un tel point que vous devenez détaché de ce monde et de tout ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on nous demande, en fait, ce qu'il nous a demandé, enfin, d'après ce que j'ai compris sur cette terre, c'est ça la loi triangulaire. C'est atteindre le nirvana, atteindre un sommet tellement élevé que rien ni personne ne peut nous atteindre. Et quand on arrive à faire ça, tout vous semble possible. Vous ne voyez que l'amour, vous n'êtes que amour. Vous ne pouvez diffuser que de l'amour. Il n'y a pas une goutte de haine en vous.
Très bien, très bien. Voilà. Je te remercie. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Ça me remet à l'esprit que justement j'avais comme idée d'organiser une émission à Radio Pléiade sur le soufisme, parce que aussi dans notre conception des choses, justement le soufisme a été une impulsion secrète de la lumière, justement pour contrecarrer certains enseignements distordus de la religion musulmane, enfin, ou extrémiste, on va dire ça comme ça. Et le soufisme est très intéressant à regarder. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et alors, je vais donner la parole. Alors, Phil, vas-y. Phil, tu peux activer ton micro.
Oui, bonsoir. Ça y est, vous m'entendez ?
On t'entend bien.
Ah, super. Oui, ben, moi, je vais peut-être aller complètement dans l'autre sens de Madame Love for All. Parce que pour moi, l'ego, c'est un compagnon qui me permet d'évoluer dans cette matière. Et que je suis là, je pense, pour manger et dormir aussi. Et que ça me convient bien, ça ne m'empêche pas d'avoir une activité spirituelle depuis fort longtemps. Et je ne sais pas s'il y a un but à atteindre véritablement, si ce n'est d'arriver à se rapprocher de soi pour comprendre éventuellement les autres. C'est déjà un gros taf d'arriver à se comprendre soi-même et puis de découvrir ce qu'on a de plus beau en nous, qui est en fait un reflet de ce qui existe de plus beau dans l'univers. Et donc, ce fameux ego, il faut se méfier de croire qu'on ne l'a plus, parce que là, on rentre dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, surtout quand on est dans cette démarche-là. Ce fameux ego spirituel qui vous fait croire qu'il y a une voix qui est meilleure qu'une autre. Voilà, bon, alors peut-être qu'il y en a une, moi je ne la connais pas personnellement, mais je la vis d'une manière assez cool et avec beaucoup d'amour et de respect pour tout le monde à mesure du possible, quoi. Et cet ego, c'est un peu comme une colonne vertébrale spirituelle, enfin, psychologique, on va dire, qui me permet d'avancer sur mon chemin. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il prenne toute la place. C'est là qu'on peut parler de conscience. À partir du moment où on est conscient on rentre dans le concept de conscience, on est un peu observateur de notre évolution et on peut mesurer les erreurs et les choses bien qu'on fait. Et cet ego, ben, de temps en temps, il veut prendre le pouvoir et puis il nous permet de faire des expériences et puis d'évoluer, quoi. Il faut bien le voir, il ne faut peut-être pas lui laisser prendre toute la place. Enfin, c'est ma vision personnelle. Mais il est bien utile et puis je ne suis pas toujours gentil. L'ego, parfois, il prend sa place et oui, moi, je l'aime bien, cet ego. Voilà.
Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage.
Voilà.
Je vais désactiver ton micro parce que sinon, voilà, il y a des bruits parasites. Donc, vous voyez, on est dans une démarche de maïeutique. Hein, on a deux avis contradictoires. C'est très intéressant, justement. Ça vous permet aussi de vous construire votre avis. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini l'ego. Et c'est une notion qui est quand même assez complexe. Je pense que si vous faites des études de psychanalyse ou si vous faites des études, de théologie, enfin, vous n'allez pas forcément avoir la même définition ou la même conception de l'ego. Mais quoi qu'il en soit, j'adhère à ce que tu viens de dire, dans le sens où l'idée de tuer quelque chose en moi n'est pas une idée qui me fait avancer. Mais j'entends bien que c'est pas ce qu'a dit Love for All. Une déviance justement possible de cette obsession de voir faire taire l'ego en soi, c'est d'aller vers un certain reniement un reniement de la vie. Alors c'est encore une fois, moi je pense que le problème vient déjà du fait qu'on utilise ce mot dans une acception qui est beaucoup trop commune. Hein, une personne donc qui a de la personnalité, qui veut garder du contrôle, etc., elle est dans l'ego, ok. Mais en réalité, quand on parle d'ego, on parle dans le domaine de la spiritualité, on parle d'une notion qui est quand même très intérieure. C'est un petit peu le cœur de notre personnalité. Et notre personnalité ne cherche pas forcément à prendre contrôle ou le pouvoir sur les autres. Alors, tu as introduit donc un concept, il fallait qu'on en parle ce soir, hein, bien sûr, qui est celui de l'ego spirituel. Et bien évidemment, justement, lorsque l'obsession se fait sur l'ego, de façon superficielle, sans véritablement prendre conscience des enjeux sous-jacents, justement, d'intériorité, on bascule assez facilement dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et Dieu sait si c'est répandu. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je parlais d'humilité, qui pour moi est vraiment une notion centrale de la spiritualité. Alors je vais donner la parole à Laurence. Vas-y Laurence, tu peux activer ton micro. Laurence, tu avais levé la main, j'espère que oui.
Ça marche.
Ça marche, on t'entend bien.
Voilà, moi je voulais dire que les deux personnes qui ont parlé dernièrement, finalement, elles parlent de deux états différents. Et que, en fait, ce n'est pas contradictoire. Je pense que la personne qui a parlé en premier, là, c'est comment elle s'appelait ? Love for All.
Love for All, oui.
Je pense que c'est une expérience profonde qu'elle a initiée. Et que quand on n'en est pas là, eh ben, on est avec son petit ego et on. Ah, ça m'émeut peut-être de parler dans la radio, j'ai la voix qui se trouble. Oui, en fait, donc finalement, c'est pas le même état. Et je crois qu'il y a des gens, par exemple Bouddha, je pense qu'il est arrivé à quelque chose comme ça, de se débarrasser de cet ego dont nous autres avons besoin psychiquement. C'est vrai que c'est un outil et c'est vrai qu'on peut très bien apprendre à vivre avec et pas le laisser déborder. Je suis d'accord aussi sur le fait que dans les centres spirituels, par exemple les lieux bouddhistes ou autres comme ça, les gens font tellement d'efforts pour se débarrasser de leur ego que finalement, ils restent complètement au piège de l'ego, ils ne s'en rendent pas compte, et tu as raison, ils se comparent les uns les autres, et en fait, ils n'en sortent pas. Mais voilà, je pense que... ils sont sortis, ils n'arrivent plus à être honnêtes avec eux-mêmes et personne ne les aide à ça. Et ce n'est pas une mauvaise chose, l'ego, c'est quelque chose qui nous aide pour exister. Moi, je me souviens d'un grand sage qui avait dit, enfin, il y avait un jeune homme qui avait, c'était quelqu'un qui faisait une conférence, et puis il y avait un jeune homme qui avait pris la parole en disant « Oui, moi, je n'arrive pas à me débarrasser de mon ego, je n'arrête pas de faire des méditations, je n'arrive pas à me débarrasser de mon ego. » Et le sage lui a dit « Eh bien, pour se débarrasser d'un ego, il faut déjà en avoir un. » J'ai trouvé que c'était très sage.
Très sage, en effet. Donc c'est très sage ton intervention aussi, parce que finalement, on a eu la thèse, l'antithèse, et puis maintenant, tu nous fais la synthèse. Parfait.
Je voulais remettre de la paix là-dedans parce que finalement, les deux personnes, elles ne s'opposent pas. Elles parlent, à mon avis, de choses réelles et qui sont des vécus différents.
Tout à fait. Et on est tout à fait dans une démarche de maïeutique et ça me plaît beaucoup. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, Laurence. C'est
voilà,
super. Merci. Alors, il y a Patricia également qui souhaitait intervenir. Vas-y, Patricia, tu peux activer ton micro.
Oui, pour moi, personnellement, l'ego, c'est un enseignant. C'est celui qui me permet d'aller à la rencontre de moi-même, de me connaître et puis d'avancer sur mon chemin de vie. Voilà, grâce à l'ego, de toute façon, j'ai de plus en plus d'intuition quand je suis trop dans l'ego qui me dit « attention, là, voilà, tu es dans ton ego, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu es… » voilà. Donc, pour moi, c'est un enseignant vraiment qui me fait avancer.
D'accord. Donc, ne pas tuer l'enseignant.
Eh bien, non, pas le tuer, mais être, en faire un compagnon, un ami. Voilà. Mais sans que ce soit ni bien ni mal, il fait partie de moi.
OK, c'est parfait. Ben voilà. Donc, voilà. Alors, je vais encore prendre la parole, je vais encore donner la parole à Cine. Pour peut-être clore ce chapitre sur l'ego, puis on va vous proposer un nouveau chapitre. J'espère que justement ça vous apporte un petit peu d'eau à votre moulin. Vas-y. Alors attends, j'ai activé un micro, mais je ne sais plus lequel. j'ai perdu la main. C'était Cine. Voilà, Cine, tu souhaitais prendre la parole? Et je t'ai donné la possibilité de la prendre, donc il faut que tu actives ton micro. Cine, C-Y-N. Non? Bon. Eh bien, tant pis, nous n'aurons pas la parole de Cine ce soir. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions donc, sur le sujet de l'ego. Donc, effectivement, je ne sais pas, nos co-animatrices, est-ce que vous souhaitiez apporter quelque chose sur ce sujet-là, votre expérience personnelle?
Non, c'est très intéressant, c'est différents points de vue en fait. C'est vrai qu'on a souvent tendance dans ce grand truc de vouloir se libérer, se détacher, enlever cet ego. Mais moi j'aime bien aussi cette lecture-là, que l'ego il a quand même sa place et son lieu d'être. Et c'est ce qui permet, comme on dit souvent, de ne pas devenir invisible en fait, quoi. Et de garder cette force quand elle est bien. Quand elle est bien dirigée, donc d'une certaine façon, quand elle ne prend pas toute la place, ça a vraiment son lieu d'être, en fait. Et du coup, parce que sinon, devenir invisible parce qu'on veut absolument tuer son ego, du coup, on n'a plus de place, en fait, quelque part. Et du coup, on perd pied, en fait. Et du coup, ça, c'est pour moi, c'est vraiment un des pièges, en fait, de ce dont on est en train de parler, en fait, de vouloir quitter notre ego absolument, quoi.
Et alors, est-ce qu'on travaille son ego quand on fait des séances de chambre à tachyon?
En fait, on travaille toutes les parties de nous.
Mais c'est vrai qu'en soi, l'ego pose pour moi un problème de définition. Et c'est vrai qu'avant de se disputer sur la notion de l'ego, ce serait bien justement de vérifier les conceptions qu'on a chacun de l'ego. Et ce n'est pas quelque chose, je trouve, justement, qui est facile à définir. Mais bref, alors tournons cette page de l'ego et je vais vous proposer un autre sujet, donc tarte à la crème. Quand je dis tarte à la crème, c'est-à-dire justement qui peut être bien ou mal compris, qui peut être bien ou mal interprété, qui peut faire partie des enseignements originels du New Age, mais aussi des enseignements déformés. Et quel est ce deuxième concept que je vous propose? Donc, c'est le non-jugement. Tu ne jugeras point. Vous avez tous entendu dire ça. Hein, je pense qu'il y a tous des êtres très spirituels qui vous ont fait comprendre, c'est pas bien. Tu juges ton prochain. Tu n'es pas un être très spirituel car tu juges ton prochain. Alors, le non-jugement, parlons un petit peu de ça. Alors déjà, le jugement, en fait... On est encore, en réalité, dans une problématique aussi de définition, problématique de sémantique. Lorsqu'on vous dit « c'est pas bien de juger », en fait, hop, d'un coup, vous rentrez dans votre coquille, vous dites « qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai juste émis un avis sur un sujet ?» Et là, on m'accuse comme si j'avais condamné à mort une personne, comme si c'était une sentence, la sentence d'un tribunal. Effectivement, le jugement pourrait être la sentence d'un tribunal. Mais il n'est pas question de cela. Si on reprend justement, si on repart d'une notion un petit peu plus philosophique ou cognitive du jugement, en fait, le jugement, c'est une opération de connaissance. Ce n'est pas un acte judiciaire de juger. Donc déjà, il faudrait se mettre d'accord justement sur de quoi on parle. Je me souviens, j'ai eu un petit échange sur ce sujet-là, sur le chat Révolution Vibratoire, par rapport à cette notion de jugement. Revenons-en aux définitions. Est-ce que juger, je ne sais pas, que la soupe est trop froide, est-ce que c'est mal? Non, bien sûr, ce n'est pas mal. Est-ce que juger que finalement un chapeau vert avec une robe rouge, c'est pas très élégant? J'en sais rien, les couleurs, c'est très relatif, mais vous voyez où je veux en venir. En fait, le jugement fait vraiment partie, le jugement pas au sens de la sentence, de l'acte judiciaire, mais le jugement au sens de j'exprime, justement, je vis, je pense, donc je juge quelque part, fait partie de la vie de l'esprit. En fait, chaque jour, nous passons notre temps, nous passons notre journée, nous prenons tout un tas de décisions et nous jugeons en permanence notre environnement, les choses qui nous entourent. Et cette obsession, justement, du non-jugement, en fait, souvent, c'est les policiers de la pensée spirituelle qui se jettent sur vous parce que vous avez eu le malheur d'exprimer justement un jugement sur quelque chose qui touche de près ou de loin à une personne. Donc, tout de suite, on vous saute dessus en vous disant « Non, vous n'êtes vraiment pas un être spirituel car vous jugez les autres. » Et la déviance, justement, de cette mauvaise compréhension du non-jugement, eh ben, c'est, je dirais, le risque, par exemple, c'est d'abandonner tout simplement sa guidance. Parce que le jugement, bah, il a plusieurs sources, il a l'intellect, il a l'intuition, il a écouter sa petite voix. Et on peut très facilement justement perdre les consciences si on impose aux gens le non-jugement. Il est facile justement de soumettre à la manipulation ou aux abus des personnes que l'on aura convaincues justement d'être dans le non-jugement. Alors voilà, je voudrais vous, encore une fois, donc pour exercer notre technique de maïeutique ce soir, je vous invite à venir exprimer votre point de vue sur cette notion clé du New Age, donc qui est le non-jugement. Dois-je ou ne dois-je pas juger mon environnement, l'autre, je ne sais quoi? Que pensez-vous de cela? Tiens, je vois que Romain nous a rejoint. Donc, Romain, tu es le bienvenu. Si tu souhaites prendre la parole, je vais te donner la possibilité d'activer ton micro. Alors, donc voilà, que pensez-vous de cela? Que pensez-vous du non-jugement? Êtes-vous dans le non-jugement? Cherchez-vous sans cesse à être dans le non-jugement par crainte de ne pas être un être suffisamment spirituel? J'attends vos réactions et témoignages.
Oui, c'est toujours fait. On m'entend là ou pas?
Ouais, on t'entend bien, vas-y Phil.
Oui, une petite intervention pour dire qu'en fait, on arrive naturellement dans la vie avec un ego, une capacité de juger. Tout ça, ce sont des outils qu'on utilisera bien ou mal. Après, c'est à chacun de voir s'ils nous servent ou s'ils nous desservent dans notre évolution à tous les niveaux, spirituels ou autres. Alors, l'ego, avec la conscience, on peut en faire quelque chose de bien, si on ne se laisse pas déborder. Le jugement avec la bienveillance, on peut en faire quelque chose de bien aussi. Enfin, voilà, ça s'arrête là.
Ben c'est bien, tu sais dire les choses de façon beaucoup plus brève et efficace que moi. Je te remercie. Tu as vu comment je juge ta parole?
Super, merci.
Je dois désactiver ton micro parce qu'il y a un retour un petit peu fort. Alors, il y a Jean-Claude qui veut prendre la parole. Vas-y, Jean-Claude, nous t'écoutons sur le non-jugement.
Bonsoir tout le monde, vous m'entendez
bien ? Bonsoir, on t'entend très bien.
Alors, moi, je suis thérapeute en PNL, et PNL veut dire programmation neuro-linguistique. Et c'est vrai qu'on a, trois actions à vérifier à chaque fois quand on a un client qui sont très importantes pour nous. C'est pas de jugement, pas d'attente et pas d'intention. Donc, une personne qui vient me voir, je suis dans le non-jugement. Et c'est complètement logique, parce que sinon, si j'étais dans le jugement, elle n'oserait pas parler. Elle ne me dirait rien.
Non, mais là tu es dans le sens du le mot jugement dans le sens sentence, catégoriser la personne, la mettre dans une boîte, c'est ça en fait. Hein. Qu'est-ce que tu entends par jugement? Explique-nous, parce que encore une fois, on travaille la nuance ce soir, c'est important.
Oui, dans faire un jugement sur quelqu'un, c'est le mettre dans un moule, dans une conception, dans un concept, c'est-à-dire dans une forme. Donc automatiquement, c'est le limiter. Et là, pour moi, c'est inadmissible. Je ne pourrais pas me permettre de juger quelqu'un.
D'accord, très bien. Non, mais effectivement, et présenté comme ça, je trouve que, comment dire, cette démarche de PNL est tout à fait honorable. Ça me semble même indispensable pour avoir le maximum de neutralité dans tes démarches. Donc voilà, un bel exemple de non-jugement et pourquoi il est intéressant de non-juger. Effectivement, donc ne pas mettre enfermé la personne, votre interlocuteur, dans votre propre forme pensée, ce qui va d'ailleurs de facto vous fermer à l'autre, d'une certaine façon. Alors, qui veut intervenir justement sur cette question? Merci Jean-Claude. Qui d'autre souhaiterait intervenir sur cette question du non-jugement? Est-il bien de juger? Vas-y.
Excusez-moi. Bon, c'est ça. Bon, au lieu de mettre la folle, c'est amour pour tous, même pour personne. C'est en anglais. C'est pour juste dire. Tout à l'heure, pour l'ego, quand j'ai parlé un petit peu pour l'ego, c'était pas pour dire qu'il fallait s'effacer. Je voulais mettre juste ça au clair. Ça n'a rien à voir. Maintenant, pour le jugement, il faut que la personne en face, elle soit dans l'acceptation de ce qu'on va lui faire formuler. Si la personne elle est mal dans sa peau, automatiquement, si vous allez lui donner une indication, automatiquement, elle se sentira jugée. Et tout de suite, elle sortira les griffes, en fait, on va dire. Donc, ça dépend de la personne que vous avez en face. Et puis, en tant qu'individu, enfin, en tant qu'être humain, on fait souvent des erreurs parce qu'on émet une opinion. Et la personne, elle est mal dans sa peau, donc elle va prendre ça pour un jugement. Et ça peut créer un malentendu. Donc, ça dépend comment c'est formulé. Ça dépend de la personne à qui vous allez le dire. Il y a beaucoup de facteurs, enfin, pour moi, qui font que... est-ce que ça va être pris comme un jugement ou comme un conseil, en fait? Voilà.
Très intéressant. Alors, moi, ça me fait penser à une chose, c'est tout simplement les quatre accords Toltec. Hein. Vous connaissez ce livre. Ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Donc, ne pas faire de suppositions. Et puis, un des quatre accords Toltec qui finalement pourrait englober le non-jugement, mais beaucoup plus que ça, qui est avoir une parole impeccable. Avoir une parole impeccable, justement, c'est peut-être aussi d'ailleurs s'adapter à son interlocuteur, comme tu le disais. C'est-à-dire que le jugement en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Peut-être que d'ailleurs certaines personnes sont là pour attendre un jugement. Moi, je rencontre beaucoup de personnes justement qui me demandent des avis sur ceci ou sur cela, ou même sur leur propre personne qui demandent ce jugement-là. Donc, ce n'est pas encore une fois, on est face, si on fait la comparaison avec l'ego tout à l'heure, on a le sentiment qu'on est face à un outil qui est ni bon ni mauvais en soi. Mais s'il n'y a pas effectivement d'écoute bienveillante ou de paroles impeccables, peut amener à des blessures ou à renforcer des blessures chez certaines personnes. En effet. Alors, est-ce que j'aimerais entendre d'autres avis justement sur cette question du non-jugement? Pratiquez-vous au quotidien le non-jugement pour être une personne spirituelle? Alors, qui a dit coucou?
C'est Patricia. Oui, personnellement, pour moi, c'est une comparaison. Quand on manque d'estime de soi, donc quand on juge, enfin moi, quand je juge, c'est que je me compare aux autres et que je veux me valoriser parce que je manque d'estime de moi dans certains domaines. Et c'est encore un enseignement, comme l'ego pour moi.
D'accord, mais alors c'est toi-même que tu juges, c'est pas les autres, c'est ça?
Ben c'est moi, oui, moi je juge, oui, je juge, mais c'est un truc qui me dérange, mais je suis quand même une personne qui juge beaucoup.
Et alors, est-ce que c'est mal de se juger? J'allais dire, est-ce que c'est mal de se juger soi-même?
Comment? C'est ni mal ni bien, c'est encore pour moi un enseignement et ça me permet d'évoluer encore à me connaître, à me rencontrer et à apprendre à me modifier, à changer, à être plus dans le cœur, plus dans l'amour.
D'accord.
Pour Laurence, moi-même et pour les autres.
D'accord.
Je peux parler ? Vas-y, je ne sais pas, j'ai plus de petit bonhomme pour lever la main, c'est bizarre.
C'est normal.
Je n'ai plus que le micro, j'ai plus le petit bonhomme pour lever la main.
C'est normal parce qu'on n'avait pas désactivé ton micro, on ne l'avait pas repassé en rouge. Voilà.
Ah, ok, d'accord. Et bah oui, bah, je voulais dire que Patricia a tout à fait raison quand on se juge, parce que moi je suis psychologue aussi, donc quand on juge, bah, c'est pour se dire « moi je ne fais pas ça ». Presque tout le temps. Enfin, et c'est vrai que moi, je ne vois pas à quoi ça sert de juger. Enfin, avoir un avis sur quelque chose ou condamner quelque chose, ce n'est pas la même chose. Dire non à quelque chose et se révolter contre quelque chose, ce n'est pas la même chose que simplement juger. Par exemple, enfin, y a des gens qui font des choses absolument épouvantables, mais on n'est pas dans leur... Ne pas juger, pour moi, c'est dire, par exemple, je ne sais pas ce qu'a vécu cette personne pour faire une telle chose. Donc, je ne suis pas en capacité de la juger, au fin de compte. Peut-être que moi, dans la même situation qu'elle, j'aurais fait quelque chose de semblable. C'était ça que je voulais communiquer.
Très intéressant. Merci, Laurence. Et ça me fait penser, sans aucun rapport, mais que si vous prenez la parole, pensez à désactiver les notifications de vos messageries parce que ça nous fait un grand son de cloche dans les oreilles lorsque vous parlez qu'on a une notification. Mais ce n'est pas grave.
Je ne sais pas où c'est. Ah oui, d'accord, attends. Je ne sais pas ce qu'il faut que j'enlève. Hop, ça, par exemple. D'accord.
Allez, je te remercie, Laurence. je te remets en muet et puis je vais laisser parler Grâce, Lopicolo. Vas-y, Grâce. Tu as levé la main. Alors, nous sommes sur le non-jugement. Est-il bien de juger ou de ne pas juger ? Grâce, Lopicolo, tu as levé la main. Est-ce que tu souhaitais prendre la parole ? Faut que tu appuies sur ton micro. Oui, voilà.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais revenir sur ce qu'avait dit tout à l'heure le thérapeute en PNL et sur la notion de neutralité qu'entraîne le non-jugement. Elle me paraît importante parce que la neutralité aide à discerner le vrai du faux. Parce que lorsqu'on regarde avec détachement un être, cela permet d'analyser les choses et ce qui est en question sans se laisser emporter par ses propres émotions. Et je trouve ça important parce qu'on se laisse la plupart du temps emporter par ses émotions, ce qui est bien humain. Tu me diras, voilà. Donc, je voulais juste rajouter cela et parce que ça me paraît important dans le... Voilà, cette neutralité me paraît capitale en fait.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cet ajout. Tout à fait. Alors, je suis désolé, je vois qu'il y a, en fait, j'ai du mal à suivre en même temps le chat Révolution Vibratoire. Du coup, si les co-admins, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions ou des interventions qui viennent du chat. Je gère du coup les micros dans le studio et j'ai du mal à faire tout en même temps. Romain, est-ce que je peux permets-moi de te solliciter. Nous aimons bien ta prise de parole. Nous sommes heureux que tu sois avec nous ce soir. Est-ce que tu aurais quelque chose à exprimer justement sur cette question du non-jugement ? Toi qui viens des étoiles, toi qui es tout frais sorti du four des étoiles.
Oui, bonsoir Hervé, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien par contre ?
On t'entend très bien, oui.
Ok, super. Oui, effectivement, c'est un sujet délicat. Moi, je pense que... On peut quand même avoir un avis sur une situation, par exemple la situation planétaire, la quarantaine. On peut juger même les forces sombres. Moi, je le fais constamment. Après, effectivement, je me suis rendu compte moi-même que c'est quelque chose d'assez délicat parce que, effectivement, je pense que le jugement vient en fait d'une identification à l'ego, d'une sorte de régression à l'ego qui se fait surtout par les implants. Et moi-même, je me fais piéger comme pas mal de personnes. Il m'arrive par moments avec mes blessures et mes traumas. En fait, c'est plutôt mes implants qui me font parler et qui me font juger autrui. Voilà. Mais moi, en tant qu'âme, je ne juge pas. C'est là où, pour moi, la dissociation, elle se fait. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins victimes, à divers degrés, évidemment, de nos implants qui parlent à notre place et qui nous font juger autrui, et qui font qu'on tourne après dans des ruminations vraiment incessantes. Donc ça, je m'en méfie énormément.
D'accord, merci. Bon, on a eu droit à la petite notification, mais ce n'est pas grave. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Romain. Ben, en fait, oui, justement, ça nous ramène au sujet des implants. Je parlais donc de la session des implants mercredi. Donc, si vous souhaitez tester, si vous n'avez jamais testé, je vous conseille vivement de le faire, la séance de dissolution des implants, donc ce mercredi à 21h. Et n'oublions pas, effectivement, que ces implants possèdent une certaine programmation. Une programmation, d'ailleurs, qui doit nous inciter à nous confronter les uns aux autres. Donc, je pense que ton avis est tout à fait pertinent sur ce sujet. Mais voilà, c'est voilà, on touche là les implants, on est presque au-delà du New Age, même si c'est un sujet dont la communauté s'empare petit à petit. Mais on est quand même sur un sujet qui est au-delà du New Age. Et c'est vrai que nous, avec notre vision des choses, on sait bien qu'il y a des programmations qui proviennent de ces implants et qui peuvent expliquer certains de nos comportements. Et de cette coupure, justement, entre l'être spirituel que nous sommes et l'être physique, mais enfin physique au sens large, c'est-à-dire même avec son intellect, cette coupure d'avec les énergies spirituelles, c'est peut-être ça qui a tendance justement à créer cette illusion de l'ego, et que lever cette illusion de l'ego, c'est justement refusionner avec son être-té complète, sans justement ces implants qui forment une barrière artificielle. Donc c'est intéressant.
Ouais. Excuse-moi Hervé de te couper, ça me vient à l'esprit là. En fait, je pense que le mécanisme en fait de jugement autrui ou sur soi-même, il se fait via les implants, parce que les implants créent le mécanisme psychologique artificiel de projection. C'est la projection qui est la source du problème, selon moi. C'est-à-dire qu'on projette sur les autres des choses complètement insensées, bêtes, et ça, voilà, ça caille-fouille dans l'esprit.
Ben, c'est super intéressant. Donc, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au mauvais enseignement, ne pas juger, remplacer l'enseignement, réaliser la dissolution de vos implants et vous ne jugerez point. Donc, mais encore faut-il savoir qu'on en a.
Penser aussi par le cœur, moi je me rends compte, c'est assez bizarre, et d'autres personnes me l'ont dit, effectivement, bon, je pense que aussi les gens qui m'ont peut-être écouté dans d'autres radiopliades sont au courant que j'ai été torturé quand j'étais bébé par les forces sombres en m'incarnant ici, donc en fait j'ai un gros problème interpersonnel avec la Confédération Galactique, mais en même temps je me rends compte que dans mon mental, donc dans mes implants, je suis en conflit avec ces gens-là, je rumine, je fais des projections, je juge autrui comme ce n'est pas permis, parce que je suis manipulé par mes implants. Et en même temps, bien au-delà du mental, de mes implants et de mon petit Romain égotique, en fait, quand je pense au niveau du cœur, là, en fait, il y a l'amour qui coule à flot. Et en fait, quand je pense au niveau du cœur, je suis tellement au-delà, en fait, du mental, de mes blessures, de mes traumas, qu'en fait, tout ça, en fait, n'a plus lieu d'être. Donc, quelque part, on est un peu, c'est vrai, dissocié avec ces implants, parce que, quelque part, pour dissocier le jugement d'autrui un peu compulsif que les implants font, et je conseillerais aux gens de toujours, un peu, comment dire, de penser avec le cœur, quoi. Penser par la voix du cœur, c'est celle qui peut faire disjoncter, qui peut nuancer, finalement, les projections de jugement à autrui que les implants vous font faire.
Ah ben super, on t'adore. Merci Romain. Tout à fait, c'est très beau. C'est très beau et ça me semble très vrai, en effet. Alors, ben merci beaucoup pour ton intervention. Je vais donner la parole à Chris Thalès, qui a déjà levé la main depuis quelques temps. Chris, tu dois activer ton micro. Voilà. Non ? J'ai l'impression qu'on l'a perdu en même temps. Tiens, curieux. Alors, ben on va donner la parole à Lucie Cascou. Vas-y Lucie, tu dois activer ton micro.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc,
quelque chose à propos du jugement par rapport à la société dans laquelle nous vivons, en particulier des réseaux sociaux où le jugement est très hâtif. C'est-à-dire qu'à peine quelqu'un met ou voit quelque chose, saute sur sa souris et va réagir à chaud et juge quelque chose sans avoir vérifié une information. Sans avoir les tenants et les aboutissants, et moi ça me révolte. Ça me révolte parce qu'on monte en épingle des débats inutiles, on dépense de l'énergie et en fait on se fait du mal. On se fait du mal à soi, on fait du mal aux autres, car si on est pris dans ces débats à chaud, bah ça finit toujours par des dégâts. Ça finit toujours par des dégâts. Et je voulais parler de cet aspect du jugement parce qu'il est présent partout. Et c'est quelque chose qui est pas à négliger aujourd'hui dans une société où on a un peu trop tendance à juger trop vite, car on est dans une société qui va très vite. Et on a peur de ne pas pouvoir participer au débat. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur le thème du jugement.
Très bien, très bien. Merci beaucoup. Effectivement, alors arrêter de juger finalement, c'est être mort, mais l'obsession du jugement, on tombe dans l'excès inverse. Et c'est voilà. Et malheureusement, les réseaux sociaux nous invitent à ça aussi. Avec le pouce bleu ou le pouce rouge, par exemple, les réseaux sociaux nous invitent à ça, à juger, justement. Alors il y a encore des mains levées. On va prendre encore Phil. Vas-y, Phil, tu peux activer ton micro et puis après, on va tourner la page.
Oui, juste pour dire que le réflexe de juger, c'est aussi un réflexe de survie. C'est un réflexe qui nous permet de rapidement, dans une foule, savoir quels vont être nos amis, nos ennemis. Et ça, c'est aussi une projection, hein, comme disait Romain. Et c'est peut-être aussi lié à des implants, sans doute, des implants qui ont fait de nous des guerriers, peut-être à un certain moment, pour des raisons précises, pour certains combats, des choses qu'on a gardées et dont on se débarrassera peut-être un jour pour passer à un autre chapitre. Voilà.
Ben merci.
Merci.
Ouais.
Bonne soirée.
Merci. Merci. Bonne soirée. Ça me fait penser en fait à l'émission qu'on a faite avec Nadine Touzeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, il y a eu même deux émissions. Il y a eu un Radio Pléiade, mais il y a aussi une autre émission. En fait, Nadine Touzeau, quelque part, c'est l'être qui juge. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elle fait du profilage, qu'est-ce qu'elle fait finalement? Elle ne fait que juger d'une certaine façon. Mais elle travaille justement sur l'intuition. Et comme tu dis, ça, le juger nous sauve la vie. Moi, je pense que plus d'une fois, justement, mon jugement m'a sauvé la vie d'une certaine façon, m'a permis de m'orienter vers certaines personnes et de m'écarter d'autres. Et le jugement est vraiment, encore une fois, est vraiment un outil indispensable justement dans cette matrice, un outil indispensable de survie. Donc voilà, donc attention à ce que vous entendez, attention à ceux qui vous prétendent vous donner des leçons de spiritualité en vous disant « tu ne jugeras point ton prochain ». Voilà, moi je dis, moi ce serait la conclusion temporaire que je donnerais par rapport à ce chapitre du non-jugement. Alors on va tourner la page et puis on va en ouvrir une autre. Oui.
Excuse-moi, pardon de te couper. C'est très intéressant ce que tu dis. Par contre, là, est-ce que tu ne parles pas plutôt d'intuition et de discernement qui amène donc à forcément avoir un jugement sur telle personne?
Absolument, absolument, tout à fait. Okay. Parce qu'en fait, l'origine du jugement, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, en fait, il peut être purement mental, il peut être par rapport à des schémas mentaux, de la programmation des implants, mais il peut venir aussi de l'intuition, il peut venir de sa petite voix intérieure, pourquoi pas même de ses guides quelque part. Le jugement peut venir. Oui. Ouais, c'est ça.
On nous touche à l'oreille un peu pour nous prévenir, fais attention, fais gaffe.
et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il peut mener à un des dangers de cela, justement, ça peut être l'abandon de sa guidance, de sa petite voix intérieure, qui est un outil de survie fondamental dans la matrice. Donc, pour relier à la thématique de ce soir, hein, donc New Age et guerre de conscience, nous encourager quelque part à abandonner cet outil fondamental qui peut être un outil de guidance très puissant, notamment à travers donc l'écoute de son intuition, ben c'est quelque part c'est une guerre de conscience, parce que justement ça va nous mettre dans notre inefficacité, ça va nous déconnecter d'une partie de nous-mêmes et nous désactiver d'une certaine façon par rapport à la guerre de conscience que nous vivons. Donc voilà, donc faire très attention à ce concept de non-jugement qui peut nous amener à des dérives. Alors, cette fois-ci, je tourne la page et j'ouvre la page suivante. Vous, Vous allez voir, c'est encore un beau sujet sur lequel on nous serine assez régulièrement dans le monde de la spiritualité. C'est bien et mal, tout provient de la source. Tout est la source. Voilà, le bien et le mal. Vous savez, cette fameuse sentence qui dit que finalement, le bien et le mal ne sont que les deux revers d'une même médaille. Voilà. Donc, ça encore, on est sur un, on va dire, sur un poncif spirituel encore assez dangereux parce que, justement, Romain, là, franchement, tu es la personne idéale pour intervenir sur ce sujet-là. Bien et mal, tout est la source. Tu réponds quoi à ce poncif spirituel ?
Mais c'est horrible de dire ça. J'ai les oreilles qui sifflent, là. C'est terrible. Tout bonnement, c'est très simple, c'est de la programmation sur cette planète. C'est-à-dire que tout est bidon. Vous allez ailleurs, mais il n'y a pas ça. En aucun cas, on doit avoir du mal pour compenser le bien. C'est pervers, c'est anormal. Simplement, ici, comme on est dans une quarantaine où tout est bloqué, où tout a été figé depuis 26 000 ans, malheureusement, les forces sombres ont mis ça dans la tête des gens, inconsciemment, dans l'inconscient collectif de l'humanité, finalement, pour peut-être opérer davantage de consentement. Mais c'est un mensonge terrible. Terrible, terrible, terrible. On n'a pas besoin que l'obscurité ou le mal vienne compenser le bien. C'est de la bêtise. Et je pense que la source n'a certainement pas pensé ça au départ. Il peut y avoir, comme l'a dit Cobra, effectivement, comment dire, la manière dont l'univers se développe, une dynamique, une interaction entre la source et l'anomalie primaire, mais en aucun cas pour se développer, pour être heureux, pour être dans la joie, pour être connecté à son âme, on a besoin que le mal vienne compenser le bien, mais c'est une connerie monumentale. Vous direz ça à un pléiadien ou un cyrusien ou un confédéré, mais vous nous regarderez avec des yeux, vous nous direz « ah ben non, enfin nous, je sais pas, on n'a pas du tout ça, quoi. Et pourtant on va très très bien ». Donc non, c'est que de la programmation Archonte à deux balles. Et heureusement qu'on arrive bientôt de l'événement parce que moi, j'en peux plus. Quoi.
J'adore. Merci. Merci Romain, c'est parfait. Je n'en attendais pas moins de toi, c'est formidable. Et effectivement, en fait, moi, je vais donner un exemple. Donc je vous invite aussi à venir prendre la parole sur ce sujet. Donc bien et mal, tout est la source. Moi, je vais vous donner mon exemple en tant que blogueur. Donc, je suis comme vous le voyez, hein, assez investi dans la spiritualité. Mais je blogue aussi pas mal justement sur des sujets sombres. Je blogue sur le satanisme, les abus rituels sur les enfants, sur des choses comme ça. Et alors, je peux vous garantir que plus d'une fois, justement, on m'a pris pour un personnage finalement très peu spirituel. Pourquoi ? Parce que je suis dans la dualité. Ben oui. Je m'intéresse, je regarde, j'ose regarder dans les yeux la profondeur du mal à la surface de cette planète. Et donc, forcément, je suis dans la dualité. Et donc, je ne suis pas suffisamment spirituel. J'ai encore beaucoup de chemin à faire pour dépasser tout cela. Donc, moi, ce n'est pas comme ça que j'ai compris la spiritualité. En fait, si vous voulez, si un pléiadien, admettons, tu parlais de syrien, pléiadien, si un pléiadien et un syrien voient le mal en action, que fait-il ? Alors, réponse A, il ne fait rien en disant « bien et mal, tout est la source ». Réponse B, il intervient parce qu'il se doit d'intervenir parce qu'il constate l'action du mal. Réponse C, je ne sais pas s'il y a une réponse C d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, on s'amuse, mais c'est triste. Hein. Je vous assure que c'est très triste parce que cet enseignement nous cause énormément de tort, comme l'a dit Romain tout à l'heure. En fait, cet enseignement, bien et mal, tout est la source, il est très, très, très efficace pour vous désactiver et vous désarmer. Et un travailleur de lumière, justement, qui refuse justement de regarder l'obscurité, qui refuse de voir la profondeur du mal à la surface de cette planète, il entre tout simplement dans le déni du mal, et quelque part, il entre même dans un consentement passif. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas, mais j'attends le vôtre. On attend le vôtre. Allez-y. Alors, Laurence, vas-y. Laurence, tu peux parler. Tu peux activer ton micro. Que penses-tu de tout cela ? Bien et mal, tout est la source.
Oui, je dirais juste qu'un enfant, un tout petit enfant, il sait ce qui fait mal et il sait ce qui fait du bien. Et nier ça, c'est complètement dingue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Continuez bien avec ça, c'est un gros sujet. J'ai toujours été révoltée pour les gens qui disent, contre les gens qui disaient que c'était la même chose et qu'il fallait tolérer le mal. Je trouve ça absolument totalement révoltant. Voilà. Okay,
bon, merci, merci Laurence. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas inventé. Hein, vous le savez, hein, vous le connaissez cet enseignement, ce poncif spirituel. Je pense que vous l'avez tous entendu. Il fait partie des gros poncifs. Est-ce que alors il y a un corollaire.
Tout à fait. On l'a trop entendu.
Voilà. On l'a trop entendu et il y a un corollaire à ce poncif. C'est focalisez-vous sur le positif. Si vous ne vous focalisez pas sur le positif, vous ne serez pas un être spirituel accompli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'attends votre intervention. C'est bien le positif, mais ne se focaliser que et strictement sur le positif, n'est-ce pas aussi quelque part nous inactiver face au travail de l'ombre? Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Non, je vais prendre un autre exemple justement qui était pris par Laura Marie dans l'article que je citais tout à l'heure. Par exemple, vous êtes face à la problématique des animaux qu'on abuse. Vous savez, les animaux qu'on maltraite, qu'on martyrise, L214, vous avez tous vu ces horreurs. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Vous choisissez de regarder et ne rien faire, regarder et faire ou ne pas regarder. Voilà, vous avez trois options finalement. Pour ça, je pensais à mes réponses A, B ou C tout à l'heure. qu'est-ce que vous souhaitez de faire? La pire des choses, sans doute, pour moi, sans doute, est de ne pas vouloir regarder et d'être dans le déni. Et c'est sans doute l'un des plus graves dangers justement au sein de cette matrice, parce que Dieu sait si le mal est à l'action. Regarder et agir, c'est sans doute la meilleure des choses. Regarder et ne pas agir, après, c'est sans doute un état transitoire et peut-être aussi une programmation des implants d'ailleurs, par rapport à cette acceptation. Il y a beaucoup de gens qui regardent le mal agir justement et qui ne font rien. Alors, je vous invite, allez-y, venez intervenir. Donc, bien et mal, tout est la source. Allez-y.
Rebonsoir.
Vas-y.
Donc, par rapport au satanisme, ce que vous disiez tout à l'heure, moi, pour avoir étudié un peu l'eschatologie, il faut savoir que ces psychopathes, ou je ne sais pas comment on peut les nommer, c'est dur à l'art.
Excuse-moi, l'eschatologie, donc c'est la science qui étudie le salut de l'âme, hein, je précise pour nos auditeurs.
Oui, en fait, oui. Il faut comprendre que ces personnes-là, enfin, si on peut les appeler des personnes, hein. Je ne sais pas comment les appeler, qui torturent, ce que vous avez dit tout à l'heure, les enfants, etc. Ils sont persuadés dans leur tête de malade que comme quoi ce qu'ils font est juste et bon. Donc, d'un point de vue rationnel d'être humain et de personne normale, ça ne peut pas être tolérable. Et le moyen d'action, si on se dit d'être dans la lumière, je suis d'accord avec vous, il faut regarder les choses en face et informer. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'essayer d'éveiller les consciences afin qu'ils regardent en face que ça existe, il faut absolument aussi arrêter ça. Mais dire que, voilà, que ça vient de la source, je suis tout à fait d'accord avec vous, non, ce n'est pas possible. Parce que la source ne demande pas de souffrir à un tel point et d'accepter ce genre d'horreur. Tranquillement, même si on est spirituel, même si on... Au contraire, puisque nous, enfin moi personnellement, j'ai toujours appris qu'il fallait repousser le mal par le bien. Repousser le mal par le bien, c'est faire des actions justes et afin justement que la lumière apparaisse et que le mensonge disparaisse. Mais le moyen, c'est d'informer, quitte à... comment dirais-je, informer, en fait, tout simplement, parce que ces choses-là existent et on ne peut pas faire du déni, on ne peut pas tourner la tête, parce qu'à force de tourner la tête, c'est à cause de ça qu'on est arrivé à ce point-là, en fait. On a cru que chacun, les êtres humains en général, parce que moi j'ai bossé là-dessus, donc c'est quelque chose qui me prend aux tripes, notamment sur les enfants, c'est quelque chose qui me... Que je n'arrive pas à comprendre et que mentalement, psychologiquement, ça ne passe pas. C'est un truc qui ne peut pas passer. Et j'ai travaillé là-dessus et c'est des choses qui existent réellement. Donc, faire un déni, faire semblant, tourner la tête ou dire qu'il va falloir rester juste pour méditer et que tout va bien aller, non, on est fait de physique et non physique. Donc, on demande de faire des actions. Bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut être positif. Je suis un être spirituel comme vous, mais aussi informer. Ouvrir les consciences aux gens. Parce que là, on est arrivé à un point où on ne peut plus faire comme le singe, là, mettre les mains sur les yeux et sur les oreilles, puis sur la bouche. C'est terminé, tout ça. Là, il faut vraiment regarder notre problème en face pour le régler. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je ne sais pas, j'ai pas la science infuse et je n'ai pas la vérité absolue. Je dis simplement, en tant qu'être humain et en tant que juste être humain, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses, quoi. Voilà, à mon petit niveau. Merci.
Merci, Forol. Pourquoi croyez-vous que les personnes que nous sommes, blogueurs et compagnie, qui passons des heures chaque jour sur les réseaux sociaux pour essayer de diffuser de l'information, pour montrer quelle est la profondeur du mal à la surface de cette planète, pourquoi on passe des heures à faire ça? Ben justement, c'est parce qu'on l'a vu, on a vu cela et on ne peut pas rester dans l'inaction. On ne peut pas. Donc, c'est sûr que ce serait sans doute beaucoup plus confortable d'aller à la pêche ou je ne sais quoi. Mais c'est pas le chemin que nous avons choisi. Et c'est vrai que si demain tout le monde s'emparait de cette question et comme tu le dis, participer à cette divulgation par rapport à tout le mal qui est fait à la surface de la planète, eh bien le mal disparaîtrait. Donc il faut le mettre en lumière pour qu'il disparaisse. Ce n'est pas être non spirituel regarder l'ombre et la mettre en lumière. Je vais citer un article qui date de 2018 justement sur Évolution Vibratoire. Juste le titre qui peut être à lui seul un résumé de tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Voilà. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Parce que tous ceux qui regardent faire justement sans agir, bah finalement, ils sont inoffensifs pour le mal. Donc le mal peut continuer à exercer son mal comme il le souhaite et le monde continuera à tourner comme il a tourné jusqu'à présent. Bon, voilà, je sais que ça peut ressembler à quelque chose de moraliste, à une leçon de morale, mais en tout cas, c'était pour illustrer justement ce poncif spirituel que bien et mal, tout est la source. Est-ce que, je sais pas, Gwen, Sandrine.
Moi, je voulais revenir un peu aussi, mais d'un point de vue plus individuel, en fait, sur cette histoire de bien et de mal. Bon, tout le monde est passé par des concepts un peu comme ça, dans le sens où quand on a vécu une expérience difficile ou quelque chose qui était compliqué, on a souvent tendance à dire. C'est normal, ce qui m'arrive, ça va me permettre d'évoluer, de comprendre les choses et tout ça. Et en fait, on se rend compte que là aussi, en fait, on donne notre consentement en fait, à la souffrance. Donc, c'est assez tordu quelque part, mais ce concept de toujours en fait, chercher ce positif dans les actions qui nous mènent. Donc là, l'action qu'on va chercher du positif, c'est grâce à ça, je peux avancer. Grâce à ça, je vais pouvoir évoluer. Mais en donnant des fois juste des petits consentements à la négativité, on ne se rend pas compte qu'on donne un consentement total, en fait, quelque part, à la souffrance. Et du coup, il faut faire vachement gaffe à ça. Un truc simple pour comprendre, c'est vrai que quand, souvent, des fois, il nous arrive des choses par rapport à des blessures et tout, voilà, ça va nous montrer là où il faut qu'on aille travailler. Et c'est là que c'est tordu. Parce que quelque part, ça montre que là, j'ai une blessure, je peux aller travailler dessus pour justement essayer de transmuter tout ça. Mais est-ce qu'on a franchement besoin de le comprendre en passant par la souffrance? C'est plutôt là où je veux en venir. Et c'est là que je trouve que c'est difficile, c'est que plein de personnes pensent qu'on est obligé de souffrir pour comprendre les choses. Et enfin, en rentrant dans cette idée-là, on donne notre consentement à la souffrance, c'est-à-dire qu'on donne de la force à la négativité de pouvoir, en fait, nous rendre pas bien pour se nourrir. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais du coup, c'est quand même, il faut faire très attention avec ce concept de toujours dire que tout est juste, ne regardons pas ce qui ne va pas et tout ça. En fait, ça met vraiment notre énergie, ça donne notre énergie à quelque chose où en fait, ce n'est pas du tout là qu'on voudrait aller, quoi. Mais en tout cas, la souffrance, ce n'est vraiment pas quelque chose par lequel on devrait passer. Je pense que quand on a tous une enfance particulière, nous est tous arrivé des choses dans notre vie, tout ça. Et quand des fois on entend nous dire, mais c'est exactement ça que tu as choisi en fait, en t'incarnant comme ça, en t'incarnant ci, c'était les souffrances que tu devais vivre. Franchement, je ne pense pas être aussi sadomaso de me dire, je vais vivre ça comme souffrance pour pouvoir évoluer, quoi. Je pense qu'en fait, on est complètement en dehors de la lumière quand on pense comme ça. Et alors qu'en fait, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment un programme. Et du coup, cette histoire de bien et de mal, le mal doit exister pour qu'on puisse comprendre le bien. Voilà, c'est, pour moi, c'est un énorme piège, en fait.
Ouais, allez, on va se faire un petit traumatisme aujourd'hui pour évoluer, parce qu'on pense que justement, un bon traumatisme, il n'y a rien de mieux pour évoluer. Hein. C'est ça, hein, Gwen?
Oui, complètement, ouais. Mais c'est hyper difficile. Franchement, je pense que, enfin voilà, faut vraiment faire attention à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent et comment on voit les choses, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme quand on revient tout à l'heure, c'est on parlait un peu de conscience collective, le fait de regarder le mal en face, dans le sens où d'être conscient de ce qui se passe. On ne demande pas aux personnes de regarder des heures et des heures, de lire des articles et des tonnes d'articles là-dessus. Non, juste d'avoir conscience de la réalité des choses. En fait, avoir conscience des choses, en tout cas, ça permet d'informer la conscience collective. Et justement, ça va permettre en fait, de transmuter toutes ces croyances et d'arrêter de donner en fait, de la force à tout ça. En fait, et de remettre les choses à leur juste valeur vont permettre aussi de reprendre notre juste place et justement de pouvoir évoluer dans la lumière et non plus justement dans un monde dans lequel on est et qu'on veut tous arrêter. Un autre truc, si par exemple on pose une question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il en pense de la souffrance ? Première réponse, en général, c'est « Ah non, il faut que ça s'arrête, on ne veut plus de ça dans le monde, c'est terrible, c'est le combat qu'on devrait tous avoir. » Mais alors, par contre, quand on va parler de nos expériences, là, la souffrance, elle a raison d'être. Et en fait, je ne comprends pas comment on peut dire que la souffrance n'a pas lieu d'être dans le monde, mais qu'on accepte la souffrance pour nous-mêmes. Je sais pas, là, je trouve qu'il y a un bug, en fait. Et que du coup, là, ça me montre quand quelqu'un, et ça arrive très, très régulièrement, quand il y a ces deux phrases-là qui apparaissent, pour moi, c'est un bug, en fait. Là, il y a un programme, il y a quelque chose qui se passe, en fait, quoi. Et du coup, moi, ça m'interpelle énormément. Et quand je fais observer cette double phrase, en fait, c'est vrai que les gens, ils me regardent, ils font « Ah ouais, tiens, c'est bizarre, c'est vrai, quoi. » Et enfin, pour moi, voilà, il y a vraiment un problème avec ça, quoi.
Romain te dirait sans doute que c'est la programmation des implants.
Ah, complètement, on est tous programmés, ouais, non, mais c'est clair. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'acceptation de la souffrance. C'est vraiment un très, très grand danger, quoi.
Ok, ben merci beaucoup pour ton intervention, Gwen, c'est super. Il y a Joe qui souhaitait prendre la parole. Vas-y, Joe, tu peux activer ton micro. Nous t'écoutons. Tu avais levé la main depuis quelque temps. Allô, allô?
Oui, voilà. C'est bon, vous m'entendez?
Ouais, c'est bon, on t'entend.
Oui, alors là, on aborde des points qui, pour moi, sont délicats. Et je crois qu'on mélange certaines choses. Et parce que je crois qu'on se positionne dans le domaine de la dualité. Autant pour l'ego tout à l'heure que pour le bien et le mal, la souffrance, etc. Et si on regarde l'enseignement numéro 3 de Laura Marie, elle dit « il n'y a pas de bien et de mal, tout est parfait, tout provient de la source ».
Attends, tu fais référence à l'article qu'on a cité en début d'émission, mais là, en fait, si tu veux, elle parle justement de cette… c'est une vision New Age. qu'elle combat, non. Justement. Elle va à l'encontre de ça.
Non, non. La vision New Age vient après. C'est-à-dire la déviation, elle dit, la déviation dangereuse de cet enseignement et l'apathie, contraire de l'empathie, l'inaction, être une proie facile. Ça, c'est le New Age. Mais en ce qui concerne la source, on a tous des enseignements dans diverses traditions, dans les enseignements que j'ai étudiés pendant très longtemps, la source est neutre. Elle n'est pas bien ou mal. Sauf que lorsque la source rencontre des causes et des conditions qui traduisent la loi de causalité, celle-ci, en fonction de l'entité qui active la source, le mal peut être produit comme le bien peut être produit. Mais le bien et le mal font partie d'une perception duelle et relative. Parce que le mal, par exemple, si on prend un exemple tout simple, certains vont avoir très mal de certaines paroles et d'autres, pour les mêmes paroles, ne vont pas du tout ressentir de la douleur. Ça dépend l'état d'esprit, comment les personnes sont formées, etc. Romain, tout à l'heure, a dit aussi que la source ne pense pas. La source n'est pas une entité. Ou alors, ça revient à dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout le monde et qui est la source qui va nous faire des choses sans... que notre libre arbitre soit respecté, par exemple. Moi, je conçois plutôt les choses à travers la tradition bouddhique. Hein, on a cité le bouddhisme, on a cité le Bouddha. C'est vrai qu'on est ici en Occident et on est davantage dans les enseignements chrétiens du Christ. Mais moi qui a étudié le bouddhisme et qui vit aussi dans un pays chrétien, je fais très peu de distinction entre les deux. Donc, tout ça pour dire que dans d'autres traditions, en particulier dans le bouddhisme, la source est neutre. Et qu'en fonction de ce qu'on en fait, les entités dotées de conscience, en fonction de des actions qu'elles font, elles produisent le bien, le mal, le samsara, le nirvana. Et pour revenir à l'ego, on produit la dualité de moi et les autres. Et quand on produit cette dualité, on a ce qu'on appelle un ego négatif. Mais lorsqu'on produit autre chose que cette dualité, se sentir très proche des autres, qu'on a des qualités qui sont identiques les uns des autres, on découvre une nature qui est différente et une nature qui n'est pas différenciée des autres. Et ça, c'est une nature, une qualité qu'on appelle ici en Occident une qualité divine. Nous, on appelle ça dans le bouddhisme une qualité adamantine. C'est la fierté d'être une divinité. Et donc, tout ça pour dire que la dualité est une chose, le bien et le mal, c'est relatif. Et l'enseignement de Laura Marie, c'est bien, il n'y a pas de bien et de mal. Tout est parfait. Alors là, il y a peut-être à discuter, puisque... tout est parfait, nous on le comprend comme tout est parfait, c'est-à-dire que en fonction des causes, il n'y a que des conséquences qui sont en lien avec les causes, c'est-à-dire ce qu'on en fait réagit ou s'active de manière parfaite, dans le sens où l'activation et le résultat de l'activation sont en parfaite corrélation. Quand on dit « tout provient de la source », ça veut dire que la source est en chacun de nous. Nous sommes une partie, on ne peut pas dire une partie, nous sommes intégralement la source, c'est-à-dire que toutes les entités conscientes disposent de la même source. On est tous de la même nature. Personne n'aime la souffrance, mais ça c'est relatif, parce qu'on est dans la troisième dimension. Quand on a un autre corps, un corps de lumière ou autre chose, La souffrance qui affecte cette partie des niveaux de conscience de la troisième dimension ne nous affecte plus. Ça affecte certains êtres qui ont un corps physique ou organique, comme on dit dans les enseignements de Laura Marie et de Lisa René. mais ça n'affecte pas ceux qui ont un niveau de conscience tel qu'il ne peut pas être affecté par les actions de certains êtres malfaisants, comme les archontes, qui ne peuvent pas être affectés non plus par les implants, etc. C'est cette notion que je voulais un petit peu partager avec vous. Bien évidemment, c'est ma lecture, hein, c'est ma grille de lecture, comme dit souvent Hervé. Et tout ça, voilà, on est là pour en débattre. Donc, je voulais donner ce petit témoignage.
Merci beaucoup, Joe, pour ton témoignage. Alors, je ne porterai pas la parole de Laura Marie. Moi, ce n'est pas comme ça que j'avais compris son texte. Mais bon, elle n'est pas là pour nous départager, mais peu importe. En tout cas, on a bien compris ton témoignage. Enfin, moi, je pense que la source bouillonne dans certains d'entre nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous donne pas envie de réagir, là, l'intervention de Joe, Romain ou Gwen?
Bah, moi, je pense, après, c'est très bien, on a le droit d'avoir des avis différents, et c'est très bien. Comme quoi, après, chacun, effectivement, se fait son propre avis, et c'est tout à fait très bien. On est là pour être aussi en désaccord. Effectivement, c'est pas ma vision des choses. Après, c'est vrai que là, on va vraiment au fond des choses, donc c'est super intéressant. Mais pour moi, la source, hein, en fait, la source, c'est la manière dont autrement dit, un peu les galactiques appellent Dieu. Pour moi, c'est l'origine de toute forme de vie, c'est l'origine de toute forme d'énergie, c'est l'origine de la conscience. Sauf que la source, le divin, c'est ça qui est complexe. La création, la source s'explore et s'expérimente à travers nous, vu qu'on est elle, en fait. Mais il n'y a pas de séparation en réalité, sauf sur cette planète où effectivement on nous fait croire qu'il y a une séparation. Effectivement, c'est des questions qui sont hyper délicates, parce que quand on parle de la source, moi je pense que la source n'est pas neutre. Normalement, la source, effectivement, n'intervient pas dans les conflits de ses propres créations. Sauf que là, elle s'est rendue compte tellement que ce qu'elle avait créé avait complètement déconné avec l'obscurité, avec l'anomalie primaire, que oui, elle n'est pas neutre et elle intervient elle-même à travers nous, à travers les cycles galactiques et cosmiques. Donc on ne peut pas dire en fait que la source soit neutre. Elle intervient, elle surveille quand même, certes elle est lente de notre point de vue temporel, comme le disait Cobra, voilà, l'univers est en train de se rendre compte que oui, il y a un très 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 gros problème à réparer en lien avec le mal, avec l'obscurité, avec l'anomalie primaire, donc la source elle n'est pas passive. Elle ne l'est pas, voilà. Et encore une fois pour moi, mais après c'est mon opinion, hein, c'est chacun est libre, la source n'est pas neutre et pour elle, elle est quand même avant tout dans le camp du bien et surtout de l'amour. Parce que n'importe quelle création au départ, que ce soit une cellule, un être vivant, une plante, une planète, une galaxie, il y a toujours une étincelle d'amour à la base. Voilà. Et si je peux me permettre, même si je respecte tous les avis de ceux qui s'expriment ce soir, le bouddhisme a été infiltré par les forces obscures. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dedans est mauvais, ce n'est pas ce que je dis. Simplement, il y a une partie, effectivement, qui est infiltrée avec de l'idéologie archonte. Voilà. C'est mon avis.
Super. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir, donc soit à ce qu'a dit Joe, soit à ce qu'a dit Romain, ou Joe, tu veux avoir ton droit de réponse, peut-être?
Oui. Moi, je serais très intéressé de savoir ce qui a été infiltré dans le bouddhisme, parce qu'on en parle très peu. Je pense que, comme partout, il y a eu des infiltrations. J'ai ma propre perception, ma propre idée sur les infiltrations, mais j'aurais bien aimé entendre de la part de ceux qui en savent plus un peu plus de choses à propos des infiltrations. Maintenant, pour réagir par rapport à ce qu'a dit Romain, il dit « la source réagit ». Moi, je dis simplement, les entités conscientes qui sont la source réagissent. Ça revient au même, finalement, pour aller dans la direction que tout le monde souhaite, c'est-à-dire le bonheur et moins de souffrance, l'amour, la compassion, etc. Mais ce n'est pas la source qui réagit, c'est les entités que nous sommes qui faisons réagir la source. Parce que nous pouvons activer toute l'énergie illimitée de la source. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des êtres divins et qui avons un potentiel et une puissance infinie. Parce que nous sommes cette capacité à agir dans le bien comme dans le mal. Et comme à un moment on comprend que le mal n'est pas la solution, eh ben on s'engage dans la voie du bien, de l'amour, du partage, etc., de l'absence de dualité. Mais c'est nous qui activons tout cela. Il n'y a pas une entité extérieure ou quelque chose d'extérieur ou, qui va agir ou nous dire d'aller dans telle ou telle direction. On est libre de le faire et c'est comme ça que je verrai les choses, que je les ai comprises. Alors, en tout cas.
Ouais. Alors justement, nous, si tu veux, Joe, dans notre perception des choses, et c'est pour ça qu'on pense que cette vision est là pour nous désactiver, nous désarmer, dans notre vision des choses, on n'est pas libre, justement, sur la planète Terre. Donc voilà, ce système solaire isolé dans l'univers, une concentration immense de souffrance, justement, on n'est pas libre. Il y a une quantité énorme de souffrance qui est imposée à un certain nombre d'âmes qui sont prisonnières. Et effectivement, la source et sans doute tous les êtres qui sont et qui émanent de la source souhaitent agir pour résoudre cette anomalie, en fait, cette anomalie cosmique. Mais là, même si le mal peut s'exprimer, si tu veux, en fait, je pense qu'on a encore malheureusement un vocabulaire qui est assez limité et limitant. Le mal, on peut très bien imaginer un pléiadien, par exemple, en train d'accomplir une action mauvaise dans le sens où, il l'a fait avec un manque de conscience, avec un manque de connexion au cœur. Il peut faire une action qui n'est pas jugée a posteriori bonne. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais en fait, dans l'exemple dans lequel nous vivons, la Terre dans laquelle nous vivons, on est dans une espèce d'extrême. On est dans un puits sans fond de souffrance, en fait. Et c'est ça notre vision en réalité du monde et enfin de la planète Terre. Et justement, pour en revenir à cette guerre de conscience et à ces poncifs du New Age, nous présenter comme bien et mal tout est la source, quelque part, justement, c'est nous ôter la possibilité ou l'envie, justement, de vouloir intervenir pour corriger cela. Et c'est là que nous, on se positionne fermement par rapport à ça. Nous ressentons la nécessité impérieuse de réagir face à cette situation, car la profondeur de la souffrance est telle, et je ne parle pas juste d'un petit acte mal placé qui aurait pu tomber par hasard, mais véritablement d'un système. Le système matriciel, il est entièrement basé sur la souffrance. Il se nourrit exclusivement de la souffrance. Et lorsque la souffrance s'arrêtera, le système, cette matrice tombera. Donc, je pense qu'on est. Il y a une notion de profondeur de mal qui est très importante dans cette compréhension, justement. Et encore une fois, moi, je le répète, à qui veut bien l'entendre, dans le monde cosmique, ce qui s'oppose à la spiritualité, à la lumière, c'est la matérialité. C'est pas le mal qui s'oppose au bien. C'est la lumière qui s'oppose à la matérialité. Et en réalité, dans cet univers, effectivement, la matérialité a mal tourné. Il y a eu une contingence qui a fait que certains êtres ont fait le choix du mal. Ils ont même modifié cette matérialité, cette fameuse anomalie plasmique dont on parle tout à l'heure. C'est vraiment au niveau atomique, la matière a été modifiée pour pouvoir ancrer cette souffrance. Et c'est là qu'il y a eu une dérive. C'est là qu'il y a eu une dérive. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres dans l'univers, je pense l'immense majorité, considèrent qu'il faut intervenir pour stopper cette dérive qui n'était pas une dérive voulue par la source à l'origine. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous... Alors, s'il y a une personne qui veut intervenir, je vais te donner la parole. Sikut Akila Franck, vas-y, tu as la parole.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Voilà, moi, la question que j'ai à poser, cette dualité et ce mal, ça fait quand même des siècles que ça perdure. C'est pas né d'hier. Ça a mis un certain temps à s'insinuer, à s'installer. Et je pense que au jour d'aujourd'hui, là où on en est, c'est parce qu'il y a eu quand même beaucoup, 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 beaucoup de laisser aller vis-à-vis de tout le monde.
Mais on dit la même chose finalement. Et justement, on est là pour que ça s'arrête. Ouais. On est là pour que ça stoppe parce que problème, ça, ouais. C'est allé trop loin. C'est allé beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà.
C'est des siècles que ça en fait, ça s'est développé de façon pyramidale, en fait, au fil des siècles. Et là, c'est vraiment plus possible pour la simple et bonne raison, c'est que là, c'est arrivé à son paroxysme. Mais je pense que si ça va plus loin, l'humanité est complètement perdue. Ce qui serait dommageable, puisqu'on a beaucoup de choses encore à découvrir, puisqu'on n'en est qu'au balbutiement de l'humanité. On n'en est qu'au début. Enfin, au début conscient, je veux dire.
Mmh, très bien. Très bien. Ben merci. Merci pour merci Franck pour ton avis sur cette question. Mais je pense que finalement, on a des avis assez, assez convergents. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir sur cette question épineuse, philosophique, profonde, théologique, cosmologique, du bien et du mal? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait intervenir? On arrive à 2 heures d'émission. Je pense que Alcyone, on ne va pas tarder à mettre un terme à l'enregistrement. Vas-y, Alcyone, tu peux prendre la parole. Active ton micro. Tu es passé en micro gris. Tu peux parler. Alcyone, Soleil Central.
Oui, voilà, on m'entend là.
Oui, on t'entend.
D'accord. J'ai écouté tout le monde. Évidemment, tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe. Moi, à mon point de vue, si on regarde, la source, c'est la lumière, il n'y a pas d'ombre dedans. Quand on est sur Terre, on ne vit pas cette chose. On comprend plutôt que c'est une prison. C'est vraiment un aspect de prisonnier que nous vivons. Et si nous voulons activer notre spiritualité, quand on comprend que c'est une prison, parce qu'un jour il faut découvrir que c'est une prison, c'est inconfortable de réaliser que c'était une prison, parce que tout le monde pensait qu'on était quand même heureux, libre de faire tout ce qu'on voulait, mais et puis un jour on prend conscience que non, c'est pas tout à fait exact, et qu'il y aurait des contrôleurs. Donc si on veut activer la spiritualité, il faut se délivrer de cette prison. Et la seule façon, déjà en premier lieu, c'est de savoir ce qui s'y passe, qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui a fait qu'on est dans cette prison. Alors évidemment, on a des explications. Il y aurait des êtres de l'anomalie primaire, etc., qui sont là depuis longtemps, ce qui nous permet justement d'envisager un petit peu la chronologie de tout ça. Mais si on oublie d'aller au fond des choses et de l'information par inconfort, on ne voudrait pas, comme tu disais tout à l'heure, Hervé, ne pas affronter les choses les plus difficiles, on n'a aucune chance. Donc la dualité, de toute façon, je ne pense pas que ce soit vraiment le problème, parce qu'on la vit tous, de toute façon, d'une façon comme d'une autre, depuis qu'on est né. Après, on va philosopher dessus, et je pense que le levier, c'est l'action, une fois qu'on a compris. Peut-être de temps en temps, ne pas avoir forcément de confort, mais avoir la vérité, nous permet d'être fort, par contre. Et donc, justement, peut-être de désactiver cette chose, si on s'y met tous. Et ensuite, pour l'ego, alors ce n'est que quelque chose que je commence à entrevoir. Et si l'ego n'était tout simplement pas qu'une anomalie qui a été collée sur les brins d'ADN? C'est ce qu'on nommerait l'ego. Donc, au fond de nous, quelque part, nous serions virussés. Donc, nous ne serions pas des gens mauvais, mais des êtres foncièrement idiots, passifs, etc., mais englués dans une espèce d'impossibilité. Sauf que c'est justement, je pense, la spiritualité. Et la spiritualité, ce serait quoi à ce moment-là? Ce serait peut-être de réactiver autre chose entre nous, en nous. Alors, est-ce que tous les exercices que l'on a et que l'on fait, les désactivations d'implants, etc., nous permettent justement de réactiver cet ADN originel et qui nous permettra justement d'arriver à la spiritualité? C'est pour ça que moi, de mon point de vue, affronter la réalité et les informations n'est plus dur, parce que on ne peut pas dire que si, comme il existe des faits affreux, comme il existe dans les bases, peuvent être considérés comme normales. Et tout est bien, c'est un accomplissement. Là, nous sommes des fous.
Tu parles des êtres qui sont torturés dans les bases souterraines,
oui,
hein, c'est ça l'allusion.
Oui, bien sûr. On ne peut pas. Ou alors, on fait ou un déni parce qu'on a peur, tout simplement, parce que notre confort va en prendre un coup. Mais quelque part, on vient de faire un déni de la spiritualité. On vient de l'abandonner, puisqu'on ne peut pas se confronter à la réalité. Et je pense que la spiritualité, c'est le réel. Dans tout ce que ça a de plus, je dirais, Black & Decker, le réel. Et à partir du réel, à ce moment-là, on peut transformer les choses et non pas les édulcorer. Et je pense que dans le New Age, malheureusement, on a un petit peu asséné un langage de confort, de bien-être. Il faut être absolument dans le bien-être pour être quelqu'un de spirituel. Ça ne veut rien dire, c'est aberrant.
Alors, donc, moi, le message que je voudrais faire passer, je t'ai reconnu. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est surtout la désactivation. C'est ça qui est souhaité justement à travers ces enseignements déformés du New Age. C'est nous désarmer et nous désactiver par rapport à notre mission de lumière, justement, pour mettre un terme à tout ça. C'est ça l'objectif du New Age infiltré.
Je suis bien d'accord. Là-dessus, on se rejoint, Hervé. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, notre mission, eh ben, c'est justement de revenir dans notre vraie spiritualité. Et on a de la chance parce qu'aujourd'hui, on a de l'information et à d'autres époques, on ne l'avait pas. Donc, on a des outils. Servons-nous de ces outils du mieux qu'on peut. Et s'il existe vraiment des forces de confédérés, il n'y aurait pas autant de gens qui descendent pour essayer d'aider dans cette mission. Parce que sinon, tout serait bien, tout serait parfait. C'est loin d'être le cas. Donc, je pense qu'il faut revenir à une réalité et se dire, maintenant j'ai compris, je suis dans une prison, mais par contre, je vais faire sauter les verrous de cette prison.
Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, bah, justement, un des représentants des forces confédérées, Romain, on avait fait une émission ensemble, justement sur le primo arrivant dans la matrice. Bon, je pense que je parle de Romain, mais vous aussi, hein, peut-être, sans doute, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est clair que si on ne nous envoyait pas du sang frais de temps en temps, comme avec Romain, eh ben, on aurait du mal. Hein. On aurait du mal à faire face à cette bastion terrible.
Je pense que c'est de plus en plus terrible. Plus on est, mieux c'est. Et d'ailleurs, à ce titre, on a essayé de faire un essai, Romain et moi, en faisant une petite vidéo. Qui est pas du tout dans la prétention, mais on a essayé de fournir le travail, puisque Romain et moi, de temps en temps, ben, on essaie de décanter des choses, puis on s'est dit on va les partager. Voilà.
Eh ben, c'est super. Eh ben, je vous encourage à le faire. C'est génial. Merci, c'est bien. Il faut travailler ensemble. C'est important.
Merci, Hervé.
Merci à toi. Alors, j'avais raté un commentaire là, d'une personne, là, Denis, là, qui nous parlait justement d'un événement du New Age, mais positif, on va dire, dans sa phase positive. La convergence harmonique, est-ce que vous en avez entendu parler, donc, de 1987. La convergence harmonique, donc, des adeptes du New Age, donc, du monde entier, en fait, se sont rassemblés sur des sites sacrés. Donc le but recherché était de rassembler 144 000 personnes, encore ce chiffre, afin de produire un effet sur le reste de la planète. Et cet événement est considéré, donc je lis le commentaire de Denis, hein, cet événement est considéré comme le plus représentatif et le plus vaste du courant New Age. Donc voilà, un commentaire intéressant, effectivement, ça m'était sorti de l'esprit, mais j'avais effectivement entendu parler de cette convergence harmonique. Merci à toi de nous rappeler cela, Denis. Voilà, donc ben, ça fait 2h10 qu'on est ensemble. On va pas entamer de nouveaux chapitres sur les enseignements distordus du New Age infiltré. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Et je vais vous donner la parole un à un, là, les co-animateurs ou même les participants, si vous le souhaitez, pour nous donner une petite phrase de conclusion avant de mettre un terme à cet enregistrement et avant de basculer en mode after pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, merci à tous. Et puis je vous laisse la parole pour un petit mot de la fin. Et puis si vous souhaitez qu'on refasse une émission, parce qu'il y aurait encore des choses à dire sur le sujet, si vous voulez qu'on refasse une émission sur le sujet, c'est tout à fait possible. On a juste effleuré la question à travers quelques chapitres. Donc je vous le rappelle, donc c'était l'ego, hein, tuer l'ego. le non-jugement, le bien et le mal, et se focaliser sur le positif. Voilà quelques poncifs que nous avons discutés ce soir pour essayer de s'éclairer et d'avancer ensemble. Allez, je vous laisse la parole. Des petits mots de conclusion, chacun. Je vous laisse prendre la parole quand vous le souhaitez.
Moi, je dirais, pour conclure avec tout ça, que eh bien, de ne pas s'oublier, je dirais d'être avec un grand E et de continuer vraiment à résonner avec son cœur dans ce brouillard ambiant et qu'on va finir par y arriver. Voilà, très belle soirée et merci pour tout.
Merci Gwen. Quelqu'un d'autre ?
Moi, je me permets très juste de dire que nous sommes là tous ce soir réunis, et en fait, c'est pas par hasard. C'est pas du tout un hasard. Et si nous sommes tous réunis à débattre, c'est pas un hasard non plus. Il y a forcément justement une force qui nous réunit, et il faut qu'elle continue de nous réunir et de réunir de plus en plus de monde, parce que c'est cette force qui va justement annihiler le mal dans son état le plus simple. C'est aussi simple que ça. Je pense que si nous sommes tous là, c'est justement pour que le mal puisse définitivement être banni de notre vision, de notre façon d'être, de nos vies ou de notre spiritualité, hein, carrément, puisque ça envahit aussi notre spiritualité, puisque on nous a fait croire qu'il n'y avait pas de bien sans mal, de mal sans bien, enfin bref, c'est... Je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là et qu'on continue d'amener plus de monde encore à lutter et à... Voilà, c'est aussi simple que ça.
Très bien, ben merci beaucoup Franck. Et ben, n'hésitez pas justement à en faire de la publicité autour de vous, hein, si vous appréciez ces émissions. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour les gens qui souhaiteraient nous rejoindre, effectivement. Et alors j'ai Fab Le Lab qui souhaitait prendre la parole. Un petit mot de la fin, j'imagine, un petit mot de synthèse. Je te donne la parole si tu le souhaites, Fab Le Lab. Tu dois activer ton micro.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Oui, alors j'ai pris le live en cours, mais ce que j'en ai entendu était vraiment intéressant. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est très très vaste et qui mériterait vraiment qu'on s'y penche plus profondément dessus une prochaine fois. Et pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, et notamment ce que Franck vient de dire, c'est que oui, je pense qu'on est effectivement des artisans hein, de ce nouveau monde à venir, et que oui, c'est vraiment important de continuer à se réunir, même si c'est de façon non physique, mais... C'est vraiment cette force qui va précipiter les choses pour le bien. Voilà.
Ben super, ben merci à toi. Ouais, on peut faire la pub de Radio Pléiade, donc c'est la radio sur laquelle vous pourrez débattre dès le premier jour de l'événement, peut-être, espérons. On sera tous réunis pour pouvoir se dire « ça y est, on y est enfin !» On va pouvoir ouvrir le champagne en virtuel, enfin j'espère, peut-être. Si tous les réseaux ne sont pas coupés, nous verrons. Mais en tout cas, on sera là le jour de l'événement. J'espère que vous serez avec nous. Alors, je coupe ton micro parce que j'entends tout en double. Voilà, excuse-moi, Fab Le Lab, j'ai dû couper ton micro. Il y avait un écho terrible. Romain, un petit mot de la fin. Allez, s'il te plaît. Je suis sûr, tu vas nous rebooster la grave là, avec ta vision des choses et avec ton énergie de la Confédération. On a besoin de ça, justement.
Oui, je sais, tu sais, ça me fait plaisir d'aider aussi, mais moi, c'est très compliqué pour moi aussi en dehors des Radio Pléiades, donc c'est voilà, c'est pas une vie idyllique. Non, ce que je voulais dire, effectivement, c'est... on n'a pas fait tout ça pour rien, quoi. Et peut-être qu'on ne mesure pas non plus les enjeux colossaux
qui sont derrière la libération de cette planète. Il faut bien se dire que ce n'est pas une planète qui libérait comme ça du joug sombre. Il y a des enjeux, mais qui sont colossaux, qu'on ne mesure pas. Ce n'est pas au niveau que notre petite planète, ce n'est pas que notre système solaire, ce n'est pas que notre galaxie. Je crois que c'est la résolution fondamentale d'un gigantesque problème lié à une anomalie. Donc on est à un moment décisif. En fait, là, on vit carrément de l'histoire cosmique. On est à l'intérieur, on est acteur. Je pense que les gens, quand on leur dira ça dans 2 siècles, dans 3 siècles, que si on reste sur cette planète ou si on part ailleurs, mais les gens nous diront, ah ouais, purée, en fait, vous y étiez. Tout le monde connaît ce moment-là où on a basculé dans un nouvel âge sans obscurité dans l'univers. Tout le monde connaît ça. Tout le monde apprend ce moment-là. Eh bien oui, nous, on y était. C'était terrible, on a souffert comme jamais, mais on l'a vécu et on y est arrivé. On a cru vraiment jusqu'au dernier moment que ça n'allait pas le faire, mais on y est arrivé. Voilà. Et ce que je me dis par moment quand je suis désespéré, c'est... En fait, ce qui m'aura fait le plus souffrir ici, c'est l'illusion de la séparation. J'ai vraiment l'impression d'être séparé des gens que j'aime, qui sont à bord des vaisseaux, et ça restera l'un des plus grands traumatismes. Mais encore une fois, ce que je me dis, c'est que quand on se connecte au cœur, là, en fait, vous ouvrez un portail, un vortex qui ne connaît ni le temps, ni les distances. Et par moments, c'est ce qui me rassure et c'est ce qui me réconforte. Et concernant l'événement à venir, je pense, à mon avis, qu'il va tous nous surprendre. Il n'y aura peut-être pas forcément d'indicateurs avant qui vont nous dire « Ah, on sent peut-être que ça se prépare durant les quelques jours, quelques semaines avant. » Je pense que ça va se jouer au fil du rasoir et qu'un beau jour, ou peut-être en pleine nuit, je ne sais pas, on aura cette libération qu'on attend tous. Tous. On va y arriver. On va y arriver. Victoire de la lumière.
Vous voyez, je vous avais dit. Moi, il me met la larme à l'œil à chaque fois qu'il reprend la parole, Romain. C'est vraiment... Alors, on fera un Radio Pléiade, mais pas forcément un lundi. Hein, si on n'attendra pas le lundi, si jamais on sent qu'on est sur le fil de rasoir, comme tu dis. Et puis, peut-être qu'on sentira absolument rien venir aussi. Et on sera tous surprendre. Mais en tout cas, vous avez compris, vous êtes la légende. Vous construisez la légende. Vos arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants parleront de vous. Il est celui qui a fait péter la matrice. Vous vous rendez compte ? Non, mais je sais que personne ne se rend compte à quel point nos élucubrations peuvent porter un sens justement dans l'univers. Donc voilà, ben, merci à tous pour votre participation. Et comme d'habitude, nous ne savons pas quel est le thème de notre prochain Radio Pléiade. On le fait aussi en fonction de l'inspiration et de l'actualité. Donc merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Donc prochain rendez-vous, dissolution des implants, mercredi soir. N'oubliez pas ma petite demande pour la ville de Bordeaux pour enterrer des pierres, si jamais il y a un volontaire. Merci de me contacter en message privé. Et puis, on se retrouve lundi prochain, sauf si l'événement a eu lieu entre-temps. On ne sait jamais. En tout cas, à très bientôt et merci à tous pour cette belle émission. Voilà, je mets un terme à l'enregistrement et on bascule en mode after. Merci à tous.